Belle soirée à vous sur France Inter, 22h bientôt 4 et tout de suite Édouard Baird, Lumière dans la nuit.
Merci Mariamel Curdi, merci. Bonsoir peut-être à 11h. Je ne sais plus, on est dans une ambiance un peu étrange ce soir, j'en appelle à des forces, aux forces de l'esprit. J'en appelle à des choses qui nous dépassent. Je leur demande aidez-moi ce soir. Aidez-moi à aller au bout de quelque chose, aller à l'intérieur de moi-même. Aidez-moi à être adhérent, aidez-moi à donner de l'adhésif, à tendre la main, aidez-moi à me faire comprendre, à comprendre moi-même, aidez-moi à être dans l'échange, aidez-moi à être intéressé par les autres, aidez-moi à ne rien renier, aidez-moi à être ouvert, mais pas trop non plus, aidez-moi à être accueillant sans être envahi. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission qui les sont ouvertes. À tout de suite, comment, quoi, à tout de suite, générique.
Lumière dans la nuit.
Lumière.
Édouard Baird. France Inter.
Dimanche soir, bien sûr, avec au piano Antoine Salaire depuis les débuts de l'émission en 1983. Hein, Antoine? Qui est Antoine, Tintin? Ouvre-lui son micro. Hein, Tintin?
Oui, depuis le temps.
Qui va nous accompagner au piano ce soir.
Tout le temps.
Et puis aujourd'hui, l'invité fil rouge, quelqu'un qu'on a envie d'accompagner, qu'on a envie d'aller plus loin, peut-être derrière le masque de l'homme de spectacle, de l'homme de médias, du personnage public qu'on connaît, qu'on aime, il y a un autre François Morel.
Bonsoir. Et c'est un cœur qui pleure.
C'est ça, parce qu'il y a d'abord le cœur.
Le cœur.
C'est-à-dire un sentiment.
Oui.
Moins joyeux, s'il vous plaît, Salaire.
Un peu raté,
oui,
hein.
Oui, ouais. Ne te rate pas deux fois, parce qu'il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde à cette émission. François Morel, un cœur, donc,
un cœur, oui.
Depuis les années où on vous suit, on vous accompagne. Parfois on vous suit, parfois on vous précède.
Parfois, oui.
Et on a senti que vous étiez un gros cœur. Vous aimez les gens. Vous les aimez, les gens. Hein.
Où est-ce que vous avez appris à poser ces questions qui sont tellement...
Bah, c'est dans ma liste.
Ah oui, c'est...
Arrête. Je vais passer en enregistré. François Morel. Mixez-moi ça mieux, parce que là, j'entends. Laissez-moi ça. Merci, les gars. François,
oui, Edouard.
Qu'est-ce qui se passe? Le monde devient fou.
Oui, mais vous êtes là.
Oui. Oui. Mais pas tout le temps.
Vous êtes là le dimanche.
Oui, encore, il y a des dimanches où on cherche à s'évader de soi-même. Mmh. Vous êtes sur scène, vous triomphez chaque soir.
Assez tôt dans la journée.
Moi, du rond-point. Vous jouez en après-midi?
Oui, je joue à 18h30.
Ah, vous jouez à 18h, je suis déçu. Tiens,
ouais,
pourquoi vous ne jouez pas le soir?
C'est ce qu'on m'a proposé comme horaire.
Ah, merde.
Merde, putain. Exactement. J'ai eu la même réflexion.
Donc, quand les gens ne connaissent pas bien nos métiers, les auditeurs, ils disent, tiens, François Morel.
Il choisit son horaire. Non, pas du tout. On dit, vous jouerez à 18h30.
Voilà.
Ce qui permet en même temps à 8h30, 9h
d'être au lit. Seul ou accompagné.
Souvent, je fais mon fléché à 9h20.
C'est Madame Morel qui est contente. Madame Morel est contente.
Voilà. Et puis à 9h20,
on
éteint.
On met un petit lumière.
La vie d'artiste, quoi. Voilà, gala. Gala.
Qui fait rêver.
Évidemment.
Surtout que vous avez accédé à la propriété récemment, votre logement.
Il
n'y
a pas longtemps, ça y est. Puis là, c'est quasiment payé.
Il reste quoi? Il reste quoi? 2 ans? 3 ans de traite?
C'est pas.
Indexé sur le niveau de vie.
Oui, c'est ça. Ouais. Oui, il en reste 18, quoi.
18 ans.
Puis Madame Morel. Non, 18 mois. Oui, donc
ensuite, tout est à vous.
Là, c'est à moi complètement. Donc, après, on va commencer à faire les travaux, peut-être des agrandissements.
Vous voyez.
Parce que vous êtes venu.
Oui.
Vous avez la buanderie est petite.
Oui, elle
est étroite.
Oui, le linge ne peut pas être lavé.
C'est ça. Donc.
Oui.
Donc on aimerait avoir un peu plus grand, justement.
Une belle buanderie.
Oui, parce qu'on est très à cheval sur tout ce
qui est. Puis le salon de musique et mal sonorisé. Puis il y a toute la partie bibliothèque billard aussi.
Et puis il y a les bêtes aussi.
Ah oui, vous avez vos bêtes.
Les bêtes,
Très belles bêtes. Là, vous avez des bêtes de concours. Là, vous avez un émmental.
Oui, on a
un cimental. Je me comprends. C'est des belles bêtes, quoi.
On a des belles bêtes.
Ouais. Vous avez des chevaux. Des chevaux qui courent.
Oui, on en a.
Il y en avait qui couraient, des chevaux que François Bayrou avait rachetés, qui ont couru.
Non. Alors là, vous avez été mal informé. C'est moi qui ai racheté l'année dernière les chevaux de France.
Ah, vous me direz tant.
Oui, j'ai acheté ceux de Fillon aussi.
Ouais.
Donc tout ce qui était tout cheval vieux, politique, vieux cheval
de retour, cheval de retour
c'est dans votre écurie personnelle.
Et Madame Lorraine, on peut les visiter.
Hein. Tout ça pour dire que vous jouez à 18h30.
Oui. Et jusqu'à 20h, et je vous dis 9h20, couché, extinction des...
Jusqu'à quelle date vous jouez à...
Jusqu'au 6 janvier.
Ça, c'est sur Paris.
Oui.
Il n'y a pas que Paris, vous me disiez.
Ah, je vous l'ai dit. Hein,
non, mais enfin, je vous le fais dire pour vous aider à plus sympa.
C'est-à-dire, j'avais joué avant, en région, et je vais jouer ensuite.
Quand c'est pas assez bien pour Paris, vous jouez en région, vous n'aimez pas les gens?
Non, pas du
tout. J'adore les gens. J'adore les gens. J'ai une photo de moi avec des gens. Oui, on voit serrer la main de Jean, là. Oui,
oui, c'est la caméra de Gilbert Larriaga peut faire
un gros plan. On voit François Morel avec des gens.
Avec des gens.
Oui, des gens pas connus.
Et c'est des gens pas connus, c'est des inconnus complètement. Et je dis, j'en ai rien à foutre. Même si moi je suis connu et pas eux, ils ont le droit d'exister, quoi.
Tiens, on voit sourire qu'une dame qui est grosse pourtant. Vous êtes un honnête homme, François Morel.
Et qui en plus transpire.
Oui, on le voit sur la photo. Il y a un gros plan sur son front. François Morel, honnête 18h30, au théâtre du Rond-Point, vous me disiez, il reste quelques places.
Il reste très peu de places, mais enfin, on se débrouille.
Non, il en reste un peu plus que ça.
Non, très très peu. Non, je vous jure.
Non, vous m'avez dit, je t'en supplie.
Je vous jure, mais non, parce qu'on a... Il y a 8 spectateurs par soir.
8 par personne.
Oui.
C'est quoi ce spectacle? Tout de suite, l'interview
Ah là.
Tous les soirs, François Morel, au théâtre du Rond-Point, interprète Raymond Devos, qu'il est bon de rire par les temps qui courent. Avec tout ce qui se passe en ce moment.
Avec tout ce qui se passe.
Eh oui. Ouais.
On a besoin de rire.
Oh là. Ma bonne dame. Oh là là. Ah ben en ce moment, avec les politicards et leurs.
Oh là, oui.
S'en foutent plein les fouilles pendant ce temps-là. Oui. Mm. Qu'est-ce qui se passe dans ce spectacle, François?
Qu'est-ce qui se passe? J'entre. Je présente Dieu et Devos.
Alors, vous êtes là.
Wow. Qu'est-ce que vous voulez que je
fasse? Non, on le fait. Donc, les gens sont. Le public arrive avant vous ou pas?
Oui.
Alors, tiens, Atmen,
fait
le public, qui s'assoit avec Nader Boussandel, vous faites le public, comment ça s'assoit?
On s'assoit,
mais alors, un petit peu.
Moi, je suis dans les coulisses, attends, alors.
Alors, on fait deux plateaux, si vous êtes chez vous, écoutez bien, il y a deux sons, deux ambiances. Donc, François Morel est en loge avec, je peux faire votre coach pendant ce temps-là.
Bien sûr, oui.
Atmen, Nader et Anne, Atmen Kelly, vous faites le public, qui s'impatiente.
Moi, j'ai pas payé le vestiaire, c'est trop cher.
Tu vas être génial, chérie.
Exactement, qu'on va voir.
Tu vas être génial.
J'ai des doutes. En plus, j'ai des ballonnements.
Tu vas être génial.
Oui, parce qu'il y a
le meilleur.
Ticket réduit.
Tu vas l'éduquer.
Tu vas l'éduquer,
t'es un génie.
Un coup, peut-être.
Ok, alors attention maintenant. Le rideau se lève. Applaudissements. Allez-y. Applaudissements. Là, alors, il y a Antoine Salaire qui est au piano. Antoine, vous êtes déjà sur scène quand le rideau se lève?
Oui, mais sous une burqa, mais les gens ne le savent pas.
On ne sait pas que c'est vous.
On ne sait pas que c'est moi.
C'est pour pouvoir vous changer?
C'est pour
pouvoir... Si ce n'est pas vous, ce n'est pas grave.
C'est pour un effet
de magie. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes ces questions. Oui. Vous
d'accord,
savez,
alors,
vous pouvez.
Alors, on refait le début. Donc, on refait le public. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Alors, François Morel arrive sur scène, là, au Théâtre du Rond-Point, Paris.
Raymond Devos, où es-tu parti? Vers quel infini es-tu parti?
Ça, c'était la première version, mais on n'a pas gardé ça.
Oui, gardez pas ça. Et alors, éloignez le micro, parce que j'ai toute l'équipe technique de France Inter qui me fait des yeux comme si j'avais couché avec les Boches en 42. Ce qui a eu lieu, mais pour moi. Alors.
Est-ce qu'il ne regarde personne?
C'est chacun, mon cœur est français, mon cul est international. Voilà. Alors,
Arletty,
chut, s'il vous plaît, public. Alors François, vous arrivez, vous parlez au public, vous dites que du Raymond Devos ou il y a des phrases de vous?
Ah, il y a des phrases de moi, oui.
Comment? Et alors vous devez tout payer au droit d'auteur?
Ah non, parce que non, justement. Bah, la famille Devos a été décimée. Hein.
Non. Non, et pourquoi ça fait rire des gens, cette phrase? C'est extraordinaire.
C'est-à-dire Raymond n'avait pas d'enfant.
Raymond n'a pas eu d'enfant.
Et donc, il n'a pas de descendance?
Il n'a pas voulu avoir d'enfant, il n'a pas pu, il n'a pas eu le temps.
Je ne sais pas. Je ne me suis pas interrogé sur cette question.
Vous pensez qu'il était seul?
Mais est-ce que nous ne sommes pas tous un petit peu les enfants de Raymond Devos? Édouard.
C'est culotté, François.
C'est un peu culotté, mais là, j'ai eu l'impression, en vous regardant, je me suis dit, je m'autorise à le dire.
Je vous me flattez.
Et quitte à choquer.
Oui, vous allez loin, vous dénoncez, bien sûr. Belle émotion, là, tout à coup. Caméra 12 de Raymond Lauriega. Alors, Raymond Devos, vous dites donc que ce sont des... Vous aimez le mot sketch ou pas trop? Pas trop.
Beaucoup.
Ah.
Oui, oui. Et vous?
Oui, essayez.
Sketch.
Oui, c'est bien.
Bah,
oui. C'est bien. Et alors, vous dites des sketchs de Raymond Devos que vous avez réécrit, réinterprété, remis en scène?
Parfois. Il y a certains que je dis comme il les a écrits. Et il y a certains autres texte que je sais de réinventer à ma manière.
Atmen a vu le spectacle. Nader, vous êtes avec Atmen Khelif là ?
Oui, oui.
Nader, vous sentez ? On est ensemble, on fait un bon
égout. Atmen est. Posez-moi la question si j'ai vu le spectacle.
Vous avez vu le spectacle ?
Oui.
Il l'a beaucoup aimé, je crois.
J'ai beaucoup aimé.
Très bien.
J'ai adoré la magie.
Est-ce que j'ai oublié des trucs, Jérôme, par rapport à l'ordre de l'émission ? J'ai oublié d'appeler des gens, de passer des coups de fil. Hein ? Ah oui, il y a Guillermo Guise qui sort de scène justement. On revient tout de suite avec François Morel dans le plateau 12 de France Inter au café Le Bel Air. Si vous êtes dans le coin, venez, il fait un froid ce soir. Guillermo Guise, bonsoir.
Bonsoir Edouard.
Vous sortez de scène, vous êtes à Arles, Bouches-du-Rhône. Je le sais parce que j'y étais moi-même hier soir et j'ai une amie qui s'occupe de l'endroit qui s'appelle le Cargo Nuit. Je lui dis, t'as quoi cette semaine ? J'ai Guillermo Guise demain, viens. Je lui dis, merci de savoir ce que je fais le dimanche soir. Je lui ai dit, parce que je fais de la radio. Comment ça s'est passé à Arles, votre spectacle, Guillermo ?
Oh, bah c'était formidable. Les gens sont d'une tendresse infinie ici. Hein. C'était très chouette. C'est dans une petite salle, en fait. Parce qu'à la base, on devait faire ça dans une grande salle. Mais je pense que mon nom n'a pas convaincu, je pense. Et donc, on a rapatrié ça dans une plus petite salle.
Ah, c'est pas vrai. C'est bon signe.
Oui. Je pense qu'on est sur un début de carrière. On est sur un début de carrière qui n'a pas encore l'heure de finalement convaincre les gens. Mais c'est pas grave, parce que les gens qui étaient là, en tout cas, dans le Cargo de Nuit, étaient tout à fait à fond et je vous remercie de poser la question.
Il vaut mieux une petite plaine qu'une grosse vide, hein, comme on dit dans le monde de l'œnologie.
Je ne sais plus de qui c'est, je vais vous laisser la paternité.
Qu'est-ce qu'on voit dans votre spectacle ? Alors j'arrive par exemple, là on a vu le début du spectacle de François Morel, vous j'arrive, je m'assois, je suis content, le rideau s'ouvre, qu'est-ce qui se passe Guillermo Guise ?
Oh, c'est plus ou moins une variation sur les états de mon sexe. Vous savez, je suis un jeune humoriste, hein. Ça démarre, et malheureusement, j'adorais faire des blagues sur les gilets jaunes et rendre les gens hilares, mais malheureusement, je parle essentiellement de choses simples. C'est mon anatomie, essentiellement, ouais. mais pas que, hein. J'essaie quand même de distribuer autour de ça des sujets.
Les premières années, on est variés, beaucoup mais... sur la bite, donc c'est ça que vous voulez nous dire, un peu. C'est ça.
Mais oui, il y a un peu de ça, mais finalement, est-ce que c'est pas une chose quand même malgré tout assez importante ? Il n'y a pas genre 3-4 choses importantes dont la bite dans une vie ?
Oui. Bien sûr. Mais vous parlez de l'objet, de l'usage que vous en faites, du rapport au sentiment, ou c'est un spectacle anatomique, oui. Qu'est-ce qui se passe ?
Il y a de tout, il y a de l'anatomie, il y a du psychologique, il y a de la bite de souvenir, il y a de la bite de souvenir aussi, beaucoup de bites de souvenir, mais une bite tout à fait raisonnablement, une bite qui est raisonnable finalement et qui malgré tout plaît.
Bon, j'en suis sûr,
un public jeune finalement ce soir, il y avait un public d'enfants à qui c'est pas du tout destiné.
Non mais c'est vrai ou pas ? C'est un spectacle finalement sur le sexe et il y avait des gamins. Oh merde.
Au premier rang, il y avait un enfant et sa petite sœur. Donc c'était un spectacle pas du tout destiné aux enfants, mais qui finalement, ne les traumatisera et leur permettra de raconter des choses à leur psychologue.
Ils étaient peut-être chez Blanche Gardin la semaine d'avant. Ils font un accéléré dans leur vie. Alors ça, on se rend pas compte. Vous commencez un spectacle très cru sur le sexe. Vous voyez deux gamins au premier rang. Vous faites quoi ? Vous changez, vous enlevez des passages ?
Non, pas du tout. Je ne vais pas commencer à faire un conte de Noël. Malheureusement, j'ai pas cette capacité d'improvisation. Donc, je suis obligé de continuer à raconter ce que j'avais prévu de raconter, et parce que les gens finalement ont payé.
Oui.
Il faut toujours s'imaginer que le spectacle vivant, c'est ça, c'est un échange entre une somme d'argent que payaient des gens finalement et un spectacle que le saltimbanque veut bien délivrer. Et donc,
un accord quant à site. Oui, parce que je sais que c'est un spectacle très raciste. Donc, s'il y a deux noirs aussi au premier rang, vous devez être emmerdé aussi.
Mais complètement, mais oui. Absolument horrible. C'est contre.
C'est aussi antisémite et homophobe. Très donc, il y a peu de gens peuvent venir, quoi. Oui.
Michel Leb.
Non, tout à fait, mais c'est très blanc. De toute façon, mais il y a une sélection à l'entrée qui est faite par un service d'ordre qui nous vient du Rassemblement National, qui a la gentillesse de nous prêter son service de sécurité et qui permet justement de ne pas avoir toute cette diversité qui est absolument atroce, on est bien d'accord, dans les salles de spectacle. Et ça permet finalement que les choses se passent bien et qu'entre blancs, finalement, hétérosexuels de plus de 35 ans,
Ça fait du bien, je veux dire franchement, ça fait du bien d'entendre ça. C'est une époque où on ne peut plus dire ça. Qu'est-ce que François Morel, il disait « Ah, je respire, ça sent bon. » Enfin, on va être viré, ça veut dire. Guillermo, il y a quoi ? Dites-moi un petit extrait de votre spectacle, s'il vous plaît, quelque chose de mais plus à gauche. Alors.
Non, mais ça, je ne veux pas faire, Edouard, parce que je pense que vous n'aimeriez pas qu'on vous demande la même chose. Non,
c'est vrai, j'aimerais pas. Mais justement, je fais aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse.
Oui, mais moi, je voudrais vous dire, parce que j'ai l'occasion, peut-être on se verra plus jamais, peut-être que demain, mon train entre Nîmes et Bruxelles se crachera malencontreusement contre un poteau, que moi, je suis absolument le plus grand fan au monde de la Bostella.
Ah, c'est voilà. Mon fils et qui avait fait 11 entrées, dont vous. Merci beaucoup, Guillermo.
Exactement, et je veux que vous sachiez que j'avais un groupe de musique à l'époque qui s'appelait Jean-François Pelvis, comme ça, vous le savez.
Ah, ben merci beaucoup, Guillermo. Ben écoutez, donc vous continuez, vous êtes toujours chez Nagui, là, le matin, ou pas?
Oui, tout à fait, une fois par semaine, mais bon, vous savez, ça n'a pas beaucoup d'importance, tout ça, on va tous mourir,
c'est vrai, dans oui, c'est vrai, temps. Tout ça.
Donc voilà.
Non, pas, et parle dans le micro.
Non, pas Nagui.
Notre ami Nagui.
Pas Nagui, Guillermo. Bon, merci Guillermo, je vous souhaite peut-être pas une longue vie, c'est trop tard, mais en tout cas, du bonheur pour ces quelques moments qui vous restent, et puis vous avez eu un public pas nombreux, mais qui vous a aimé ce soir.
Merci Edouard, c'était un moment crucial dans ma vie. Je ne serai pas la même personne quand je me lèverai demain matin, je peux vous le dire.
Merci beaucoup. Je sens même que pendant cette conversation, vous avez changé. J'ai senti un homme au début aux abois, désespéré, désemparé, dans le doute, qui avait failli arrêter son métier. Un homme naguifié, sacrifié, laissé comme ça sur les pelouses de l'hippodrome de la grande course pour la gloire et la réussite du show business. Et je crois qu'avec François Morel, Edmond Califodo, on a su le remonter dans cette fraternité du spectacle qu'on connaît assez mal dans ce métier où on croit que nous sommes tous des concurrents. Qu'est-ce que tu me dis, Jérôme? Il y a quoi?
Il
n'y
a pas de Jack.
J'entends pas le... Alors quelqu'un me dit il n'y a pas de Jack, mais les auditeurs ne savaient pas qu'il devait y avoir Jack. Donc tu me dis un truc qu'il n'y avait pas que je sais. Je ne lis pas le conducteur, je ne peux pas savoir. Envoyez de la musique, à tout de suite.
Ah!
Pardon. Il y a un formidable livre de Gérald Bronner qui s'appelle Cabinet de curiosité sociale. Alors, je ne sais pas pourquoi celui-là. On reçoit des livres parfois à France Inter. Parfois, je ne les lis pas, parfois souvent. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'étais ravi de le lire. Et j'ai trouvé que c'était d'une clarté. Bonjour Gérald Bronner.
Bonsoir, merci.
Voilà une introduction qui n'est pas. Alors, j'en dis tout de suite un petit extrait pour voir un peu le ton général. Vous partez de beaucoup de quoi ? D'idées toutes faites, d'idées contemporaines
Oui, je pars simplement d'une observation du monde. Je regarde le monde avec un peu de tendresse, mais tout me paraît tellement fou. Et je trouve que quand on gratte un peu la folie collective, on s'aperçoit que souvent c'est juste un amoncellement de raisons. Voilà, donc je suis un peu un archéologue des raisons, des croyances, et j'essaye de rendre intelligible ça pour mes lecteurs.
Vous partez d'énormément de choses qu'on croit acquises, qui semblent des vérités absolues, des choses qu'on ne remet pas en question. Ah ouais. Et on s'aperçoit qu'en grattant un tout petit peu, tout est différent de ce qu'on croyait absolument savoir.
Ben oui, par exemple, des choses du quotidien. Les ballons sont ronds, la plupart des ballons sont ronds. Bon, bien sûr, il y a toujours les mauvais esprits qui vont me dire oui, mais le rugby, le football américain, mais statistiquement, les ballons sont ronds. Pourquoi ? Pourquoi les gens se lèvent toujours 5 minutes avant que le train n'arrive, par exemple ? Pourquoi les gens photographient leur assiette et le mettent sur les réseaux sociaux ? Ce sont des questions qui me fascinent.
Il y a beaucoup d'autres questions, et dont certaines sont des choses qu'on dénonce absolument en tant que citoyen, en tant qu'homme et que femme. Des grands mouvements sociaux qu'on trouve consternants, on se plaint de tout, on s'aperçoit qu'à notre échelle, on les reproduit. J'ai une chose toute bête, vous parlez beaucoup du soi-disant goût pour les bonnes nouvelles, il y a trop de catastrophes, il y a trop de drames à la télévision, on voit trop d'horreurs, on voit trop de bêtises, on voit trop de cons, et on s'aperçoit que c'est ce qu'on a envie de regarder.
Ben oui, il y a un site d'ailleurs russe qui avait annoncé que à tel jour, il ne donnerait que des bonnes nouvelles, n'est-ce pas ? Et le flux de lecture a été divisé ce jour-là par 70%. Donc effectivement, c'est ce que révèle notre contemporanéité. Je trouve que c'est pas très grave, c'est notre médiocrité collective. On est tous un peu médiocres et je crois qu'à nier cela, on s'invente des utopies qui se terminent dans le sang, en fait, pour dire un peu de choses un peu gravement, parce que c'est fondé sur des anthropologies naïves. En réalité, je crois qu'il n'y a rien de plus humaniste que de dévoiler l'homme dans sa beauté, mais aussi un peu dans sa médiocrité. C'est cette pâte à modeler là qui nous constitue.
Alors c'est étonnant d'en parler avec tendresse comme ça plutôt qu'avec agacement. C'est ça que je trouve formidable dans le ton de votre livre, c'est que c'est pas du tout une sorte de dénonciation générale.
Alors c'est peut-être de l'égocentrisme, hein. C'est parce que je me reconnais dans chacune de ces bêtises, de ces croyances. J'ai été moi-même croyant quand j'étais enfant et on est traversé sans cesse de drôles de lubies, d'obsessions. Et quand on a un peu de générosité intellectuelle, et puis surtout c'est assez passionnant, parce que c'est ma profession, on reconstruit l'univers mental des autres et on se dit, peut-être que moi aussi, à sa place, j'aurais fait la même chose. En fond, il n'y a pas besoin d'être stupide ou méchant. Ça existe, la stupidité, la méchanceté, mais ça explique assez mal le monde, oui. En fait.
Ouais. Alors il y a des dénonciations collectives, et puis individuellement, on se comporte un peu comme ce qu'on dénonce collectivement.
Ben oui, quand prenez un embouteillage, par exemple. C'est complètement con, un embouteillage, mais n'empêche que c'est la somme seulement d'individus qui ont envie de rentrer chez eux le plus tôt possible. Sauf que comme ils veulent le faire en même temps, ça provoque un effet qu'ils ne souhaitaient pas. Tous les effets collectifs qu'on observe viennent bien d'intentionnalité, d'individus qui veulent quelque chose, mais ils ne veulent pas forcément produire ce qu'ils ont produit.
Alors le tourisme, c'est un peu le résumé de tout ça aussi. Cette idée qu'on veut absolument être seul quelque part, qui n'appartient qu'à nous. Oui. On voudrait aller comme touriste dans un endroit où les touristes ne vont pas. C'est la première chose qu'on demande.
Et on se retrouve avec tout le monde.
Oui, c'est pas un endroit pour touristes ici, dit-on, habillé en touriste. Oui.
Absolument.
Alors, comment on sort de ça ? Surtout dans des époques comme ça, on a l'impression que tout est de la faute des autres, du collectif, du groupe, des pouvoirs, ou même parfois, vous parlez aussi des théories de complot dans votre livre, le retour des recherches sur les Illuminati et toutes ces folies-là.
Je crois que la première démarche, c'est justement de visiter mon cabinet de curiosité sociale et de se reconnaître, en fait, de se reconnaître simplement, c'est un miroir un peu grimaçant, c'est comme les réseaux sociaux. En réalité, le comportement, le livre s'introduit sur cette idée que les réseaux sociaux nous rendent plutôt dépressifs, déprimés. Ça a été montré par des chercheurs allemands et on peut se demander pourquoi. Mais tout simplement parce que nous tous, sur les réseaux sociaux, on tente à exhiber une partie de notre vie qui n'est pas représentative de notre vie. Je pense que Albert Einstein ou André Breton devaient s'ennuyer pas mal. Ils allaient aux toilettes, etc.
Il y a peu de photos d'Einstein en maillot de bain.
Exactement. Donc en fait, tous les gens qu'on admire, et puis finalement, on se force un peu sur les réseaux sociaux à faire en sorte que les autres nous admirent un peu. On essaye de capter un peu de temps de cerveau disponible. Donc on va exhiber des photos de soi mangeant, je sais pas, dans un restaurant 3 étoiles, sur une plage magnifique avec un coucher de soleil. Ça peut être de très mauvais goût par ailleurs, mais enfin bon, on croit que c'est de bon goût. Et cela crée chez les autres, chez ceux qui regardent, le sentiment que notre vie à nous ne mérite pas vraiment d'être vécue autant que la leur.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Gérald Brunner? Il faut prendre des petits morceaux du monde en réparation, c'est-à-dire autour de soi, essayer d'adapter des tout petits comportements sociaux un tout petit peu différents de ce qu'on faisait
avant. Alors, pour ce qui est de la recette du bonheur, ça sera le thème de mon prochain livre, je me permets de l'annoncer, mais il y a quand même, ça tient en une équation simple. Il suffit de fréquenter des gens qui gagnent un peu moins d'argent que vous, qui sont un peu moins beaux que vous, et globalement un peu moins heureux. Voilà, il suffit de ça.
Parce que la jalousie, ouais, c'est vraiment une chose terrible dans la nature humaine pour vous.
La frustration, en tout cas, est beaucoup liée à la fréquentation de notre environnement, bien entendu. Si nous vivons dans un monde où nous n'avons absolument aucun espoir, par exemple dans le monde médiéval, vous voyez, quand vous êtes paysan, vous n'avez pas vraiment d'espoir de devenir aristocrate. Bon, si on accepte la pièce de Molière, Le Bourgeois Gentilhomme, où on voit qu'à certaines périodes, il y avait des ascensions possibles entre classes, mais globalement, quand vous n'avez pas d'espoir, vous n'avez pas de frustration non plus. Or, on a cette chance incroyable de vivre dans une société, la démocratie, qui est en quelque sorte dérégulée nos désirs. Mais cette dérégulation, elle a un prix, celle de la frustration qui s'incarne dans toutes sortes de ressentiments, dans toutes sortes, effectivement, de jalousies.
C'est très pessimiste ce que vous dites. Donc, en fait, quand on est heureux, il ne faut surtout pas le montrer, il ne faut pas le dire, parce qu'on fait plus de mal aux autres qu'on croit.
Mais non, parce qu'il y a une grande jouissance à faire en sorte que les autres nous jalousent. Donc,
mais la phrase « je suis heureux pour toi », elle est fausse, cette phrase-là.
Alors,
je voyais pas ce côté pessimiste.
Il peut y avoir un bonheur à rendre les autres heureux, n'est-ce pas? Parce que moi, je viens de Nancy. Stanislas, il a cette phrase.
Mais c'est formidable. Je viens de Nancy, provincial,
magnifique.
Stanislas
disait, il n'y a pas de plus grand bonheur que de rendre l'autre heureux. Mais malheureusement, j'ai peur de vous paraître un peu cynique. Je pense que malgré tout, même là, il y a une forme de petite épicerie mentale qui fait qu'on cherche sa jouissance psychique, même en voulant faire plaisir à l'autre.
Si l'autre est déjà heureux, on ne sert à rien. C'est vrai que quand on dit « je veux faire du bien aux gens dans la vie artistique », moi je donne tout au public, s'il n'y a personne pour à soigner ou personne à consoler ou à guider, si les gens sont assez joyeux, c'était le rêve de Debord, c'est qu'on n'ait plus besoin du spectacle finalement.
Non mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait quoi, si tout le monde était absolument joyeux, ça s'appelle le paradis ou les utopies de Thomas More, etc. C'est des mondes où il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, c'est pas de drame, donc... On n'est pas certain d'avoir envie de vivre dans un monde sans histoire.
Il faut qu'il y ait un peu de montagne russe. Il faut être très malheureux pour sentir qu'on est heureux.
Et oui, absolument. Alors ça, c'est un autre. Pour être un peu heureux, il faut être un peu malheureux aussi, mais pas trop. Je dirais un tiers, deux tiers. Quoi. Voilà, je propose cette petite équation.
Il y a un extrait. J'aime bien cet extrait sur le rire dans votre cabinet de curiosité sociale. Vous dites le rire est un bien cathartique qu'on doit accorder à la démocratie, mais le rire a des droits qui ne sauraient être concédés au discours politique lorsque cette capacité à dire c'est indicible. Se mue en volonté de puissance, on aboutit immanquablement à un mélange nauséabond. Si le bouffon doit toujours être en capacité de se moquer du pouvoir, dès lors qu'il le convoite, il tend à nous faire rire jaune.
Absolument.
J'ai bien aimé ça, quand le discours majoritaire est déjà l'ironie.
Oui, parce que un des principes du rire, pas le seul, mais un des principes du rire, c'est un effet de dévoilement. Généralement, le rire, et vous l'avez fait d'ailleurs tout à l'heure, fort brillamment, le rire dit des choses qu'on n'ose pas dire.
Ça absolument. Vous a plu?
Oui, je vous félicite.
Vous étiez dans la salle?
Non,
on ne me dit rien.
Vous étiez dans la
salle.
Enfin,
on ne me dit pas qui est dans la salle. Qu'est-ce qu'on merci beaucoup, Gérald Brunner. Le cabinet de curiosité sociale, SoPub, c'est un livre formidable. Qui y a au téléphone?
Julie.
Eh ben, Julie, on prend Julie. Allô? Julie?
Allô?
Julie?
M'entendez-vous?
Mais c'est Julie Cadaz.
Mais oui, c'est
Julie, je voulais vous appeler parce que j'ai vu dans West France que vous lanciez à Douarnenez une entreprise de coiffure à domicile, le Pen Sardine, et enfin des coiffeurs qui ont décidé de s'intéresser à une catégorie de la population qui était très longtemps délaissée par ce noble métier. Je parle des chauves.
Je me demandais si on allait parler des chauves ou des alcooliques. Les chauves.
Alors d'accord. Ça n'empêche pas, beaucoup de chauves deviennent alcooliques. Par angoisse de leur calvitie, le contraire est vrai, certains alcools font perdre les cheveux. Non, je voulais parler des chauves. Vous avez décidé de vous occuper, beaucoup de chauves ne peuvent pas dire comme nous, tiens, excuse-moi, je vais chez le coiffeur. Et chez vous, on peut.
Bah oui, excuse-moi, j'attends Julie.
Alors, qu'est-ce que vous proposez pour les chauves, Julie Cadaz, au Pen Sardine?
Alors, pour les chauves, je ne propose pas des coupes de cheveux ni des colorations, mais par contre, je fais des massages. C'est pas que pour les chauves, hein. Mais les chauves y ont droit aussi, du coup. Les massages du cuir chevelu.
Alors c'est un massage qui fait revenir le cheveu, qui suscite le bulbe, ou bien on y renonce et juste on se fait du bien au crâne?
Ouais, c'est plus ça, c'est l'acceptation.
À partir de quand on peut parler de chauve? À partir de combien de cheveux?
En dessous de 3 cheveux, on peut considérer qu'on est complètement chauve, mais le massage est accessible même si on a 15, 16, voire même toute la tête.
On n'est pas obligé d'avoir une Telly Savalas ou une Yul Brynner pour se faire masser les cheveux au Pen Sardine, la tête.
Non. Et on n'est pas obligé de compter non plus, parce que des fois, ils sont derrière, on ne voit pas trop. Non, non, je peux venir quand même, même si on n'est pas sûr du nombre de cheveux.
Est-ce que certains porteurs de compléments capillaires, moumoutes, postiches, vont quand même chez le coiffeur se faire couper leur perruque pour se rassurer? On m'a signalé des membres éminents du show business qui avaient des perruques de plusieurs tailles pour faire croire qu'ils se coupaient les cheveux. Si vous me faites voir, je vous dirai qui.
Vous m'enverrez un message privé sur Facebook.
Non, vous n'avez pas non, ça, un mec avec une perruque qui dit « faites-moi une coupe » et vous êtes un peu gêné, non?
Je l'ai déjà vu quand je travaillais en salon. Mais pas à Douarnenez. Je crois qu'à Douarnenez, les gens sont plus authentiques et les porteurs de moumoutes soit se font discrets, soit c'est vraiment très bien fait, ça ne se voit pas.
Alors j'ai entendu, et qu'est-ce que vous avez réservé pour les alcooliques au peigne sardine?
Alors je fais des apéros coiffures.
Oui.
Je précise que c'est pas moi qui fournis la boisson, sinon je vais être débordée d'appels.
Oui.
Non, en fait, c'est le vendredi soir et le samedi soir, je vais chez les gens. C'est un peu sur le principe des réunions Tupperware.
Oui.
Et voilà, une personne invite, tout le monde boit l'apéro, et moi je me mets dans un coin avec mon matériel, ma glace, ma petite valise, et je coiffe les volontaires.
Et vous ne buvez pas, parce que évidemment le ciseau imprécis, ça, ouais.
Alors, ça pourrait être très bon pour l'inspiration, mais je ne suis pas sûre que les assurances me couvriraient, donc non. Mais par contre, quand même, quand j'ai fini, si l'ambiance est bonne, il m'arrive de rester boire un verre avant de repartir, mais un seul, parce que je conduis.
Merci Julie Cadaz pour tous ces éclaircissements sur le monde du cheveu et de l'absence de cheveux. Et bonne chance au peigne sardine.
Merci pour votre émission.
Merci. François Morel, 25, 30, 35 ans dans les arcanes du show business, avoir en coulisses 37 ans, avoir sur scène des artistes avec plus ou moins de réussite, porter tout type de cheveux. Vous avez vu des misères capillaires dans ce métier, vous avez vu des gens... aux cheveux grisonnants et puis tombés, vous avez vu des fronts poussés, vous avez eu des nuques s'élargir, vous avez vu des tonsures devenir béantes. C'est une grosse émotion hein, par des gens qui doivent paraître, que sont les acteurs.
C'est énormément d'émotions, presque je viens d'entendre.
Alors, plus que Lucchini, vous avez
d'autant,
été...
D'autant que j'ai en face de moi Atmen Khelif et quelle belle nature de cheveux il avait.
C'était une
et petite... comme il l'a perdu.
En effet, Atmen Khelif était un des plus beaux cheveux du.
C'était les plus beaux.
À l'époque
cheveux
des chiens, les gens regardaient beaucoup les.
Vous n'avez pas connu les cheveux d'Edouard dans les années.
Les cheveux d'Atmen.
Les cheveux d'Atmen, Edouard dans les années 90.
Atmen, les coiffeuses de cinéma adoraient vous mettre les mains dans les cheveux. Vous aviez une très belle.
Pas seulement.
Dans puis le temps est passé comme une bourrasque.
Dans la barbe, dans
tous les points.
Dans tout son. Il dit.
Je suis grisonnant. J'ai mis de l'argent de côté.
Vous pouvez chanter.
Il a dit. J'ai un très bel espace capillaire. Et c'est vrai. En fait, c'est ce qu'il résume le mieux.
François Morel va maintenant rejoindre l'espace 12 du grand studio du Bel Air en direct ce soir. François, c'est un extrait du spectacle de texte de Raymond Devos.
Ça ne vous dérange pas.
Voilà. Qui vous accompagne ce soir et nous?
Alors ce soir, je suis accompagné ou par Antoine Salaire ou par Romain Lemire.
Alors c'est l'un ou l'autre?
C'est l'un ou l'autre.
Et vous ne les reconnaissez jamais?
Jamais. Je ne sais jamais qui.
C'est de l'indifférence?
Oui,
c'est quoi?
Oui. C'est de l'indifférence. C'est tout. Et puis je crois que c'est beaucoup de mépris.
C'est ça. Vous me dites, je ne peux pas m'occuper. Il y a cette très belle phrase de vous. Je ne peux pas m'occuper de toute la misère du monde. Mon public m'attend. Il est très différent du Morel humaniste du matin. On l'aime bien aussi, ce Morel très antipathique du soir. Un extrait donc de. Comment s'appelle le spectacle, Atmen, toi qui l'as vu?
J'ai des doutes.
Vous l'avez aimé, Atmen.
J'ai adoré.
Il a aimé.
J'ai adoré ce spectacle. J'ai pas de doute sur François Morel. C'est un génie.
Très bien. Tout de suite. J'ai envie de bien sûr, allez.
Dieu! Que ce que joie est triste. Joie, mon chien qui aboie le soir au fond des bois. Loi, loi, et loi, loi. Ce que nous ayons, loi, loi telle. Louis de loi. Ah oui, Louis de loi de Louis, ah oui.
Ah oui? Et qu'a oui, Louis de loi de Louis?
Elle a oui ce que tout toi oua.
Et quoi tout toi?
Tout toi oua, quand mon chien aboie le soir au fond des bois. tout toi, roi, roi, roi.
Depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Il se prend pour un être humain et je n'arrive pas à l'en dissuader. C'est pas que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, mais que lui se prenne pour quelqu'un, je trouve ça un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi ? Quoique, dernièrement, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me promenais avec mon chien que je tenais en laisse. Je croise une dame avec sa petite fille. J'entends la dame dire à la petite fille, va caresser le chien. Et la petite fille est venue me caresser la main. J'avais beau lui faire signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien c'était l'autre, la petite fille continuait gentiment de me caresser la main. Et la dame a dit, tu vois qu'il n'est pas méchant. Mon chien, lui, qui ne perd jamais une occasion de se taire, a cru bon d'ajouter, madame, il ne lui manque que la parole. Ça vous étonne, hein ? Moi, ce qui m'a étonné, c'est pas tellement que ces dames m'aient pris pour un chien, tout le monde peut se tromper, mais qu'elle n'ait pas été autrement surprise d'entendre mon chien parler. Les gens ne sont plus surpris par rien. Moi, j'aime autant vous dire que la première fois que j'ai entendu mon chien parler, j'ai été surpris. C'était un soir, après dîner. J'étais allongé sur le tapis. Je somnolais. J'étais pas de très bon poil. Mon chien était assis dans mon fauteuil, il regardait la télévision. Il n'était pas dans son assiette non plus, je le sentais. J'ai un flair terrible. Depuis que je vis avec mon chien, le chien, je le sens. Et subitement, mon chien m'a dit « On pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne ». Sur le coup, je n'ai pas réalisé. Je lui ai dit, tu ne m'as jamais parlé sur ce ton. Il m'a dit, non, jusque-là, je n'ai rien dit, mais je n'en pense pas moins. Je lui ai dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a dit, ta soupe n'est pas bonne. Je lui ai dit, pas tes non plus. Et subitement, j'ai réalisé que je parlais à un chien. Je lui ai dit, tiens, je ne veux même pas discuter avec toi, tu n'es qu'une bête. Enfin, quoi, un chien qui parle ? Est-ce que j'aboie, moi ? Quoique, dernièrement, mon chien était sorti sans me prévenir. Il était allé aux puces. Moi, j'étais resté pour garder la maison. Soudain, on sonne à la porte. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Au lieu d'aller ouvrir, je me suis mis à aboyer, mais à aboyer. Le drame, c'est que mon chien qui avait sonné et qui était derrière la porte a tout entendu. Alors depuis, je n'en suis plus le maître. Avant, quand je lui lançais un bâton, il me le rapportait. Maintenant, non seulement il ne me le rapporte plus, mais c'est lui qui le lance. Et si je ne lui rapporte pas dans les délais, qu'est-ce que j'entends ? Je suis devenu sa bête noire. Mon chien, c'est quelqu'un. C'est dommage qu'il soit pas là parce qu'il vous aurait raconté tout ça mieux que moi. Parce que cette histoire, quand c'est moi qui la raconte, personne ne me croit. Alors que quand c'est lui, les gens sont tout ouïs. Les gens croient n'importe qui.
Antoine Salaire ce soir. Hein. Alors je voudrais savoir si vous parlez vraiment chien. Donc si vous étiez avec un chien pendant cette séquence, appelez au 01 45 24 70 00 et passez-le-moi. Voir s'il a compris le langage, je ne suis pas sûr que vous parliez vraiment chien. 01 45 24 70 00, le standard de France Inter, demandez à Anouk. Et nous sommes Alexandre Astier, bonsoir.
Bonsoir,
nous sommes avec vous. Alexandre Astier sort d'une tournée promotionnelle pour le film Astérix qui s'est terminé par un immense succès populaire. Ça vous a plu ou pas ?
Ah, la fin est sèche, mais oui, vous avez un talent pour ça. Je vous l'ai
non,
dit,
j'ai voulu faire court, les gens, parce oui. que les gens aiment bien le succès. C'est-à-dire que le film est bien, mais si en plus ils savent qu'il a marché, ça rassure. Vous voyez, c'est un peu ça que je me suis dit.
Ah, c'est bien, oui. Vous pouvez, ça enclenche un bouche à oreille, en somme.
Oui, parce que si les gens se disent « Ah, ils n'ont pas aimé », ils pensent que si les autres n'ont pas aimé, ils ne vont pas y aller, pensant qu'eux ne l'aimeront pas. Vous voyez, personne ne veut être le premier à aimer un film.
C'est malin, c'est malin.
Parce qu'il m'est arrivé de faire des très bons films, mais comme personne ne le savait, c'était trop... Ils n'ont pas... Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, je comprends. Oui, je vois très bien, oui.
Tandis que là, il est bon, et en plus, les gens y vont.
Vous l'avez vu ?
Non.
D'accord.
On dirait du Raymond Devos. Vous êtes allé le présenter dans quelle ville, Alexandre Astier ?
Je suis allé... non, peu importe. Dites, j'ai eu une épiphanie tout à l'heure.
Il était d'un mépris. Ce peu importe était d'un mépris.
Non, mais vous avez interviewé un auteur tout à l'heure à propos de son cabinet de curiosité. Ouais. Je vais vous poser une question.
Oui.
Est-ce que vous me fréquentez parce que je suis légèrement moins beau, moins riche et moins célèbre que vous ?
Alors, On va.
Non, mais tournez pas autour du pot, ça va. Répondez oui, non, terminé.
D'abord, j'ai vu votre domicile en Ardèche. On est plus dans le château que dans la maison bourgeoise. Hein. Physiquement, vous perdez 3 kilos, vous nous niquez tous la gueule. Hein. Et puis, au niveau succès, on dit Astier, les gens s'évanouissent. Alors arrêtez de vous faire servir comme ça la soupe et de vous faire cirer les pompes par un animateur de fin de soirée hebdomadaire de France Inter.
Oui, vu comme ça, c'est vrai.
Voilà, écoutez. Sinon, la petite santé, ça va, Alexandre Astier?
Non, j'ai pris la crève dans le désert. C'est affreux, vous savez. Faut jamais aller dans le désert, c'est trop climatisé.
Le désert, vous parlez d'un moment de votre carrière ou vous parlez un vrai désert dans lequel vous êtes allé?
Non, je suis dans un vrai désert. Mais c'est vrai que, bon, on a des hôtels à 14 degrés, un désert à 40, et vous savez ce que c'est, les avions, les machins, voilà. J'ai la crève. J'espère que les gens écoutent bien ça sur France Inter, parce que je pense que c'est important.
Bien sûr, c'est important de mieux vous connaître. Est-ce que vous allez dans le désert après vous êtes trop montré? Est-ce que c'est important de se ressourcer? Est-ce que vous pratiquez le yoga, la méditation transcendantale ou les jeux télévisés?
Non, je cherchais des bricoles, mais c'est surtout que je voulais voir un scorpion.
Alors
Non, ils disent que c'est très rare. Alors, j'ai creusé un peu, mais c'est très rare. Voilà. Même ceux qui habitent vraiment dans le désert, sous des tentes et tout ça, non, ils vivent sans scorpion.
Vous avez fait chou blanc?
Ils se couvrent leurs chaussures le matin. Chou blanc, oui. Chou blanc, totalement. Il y a Morel avec vous, là?
Oui.
Très bien. Vous le saluez?
Oui, on va faire ça.
Non, mais faites-le.
Oui, mais François Morel. Oui. C'est Alexandre Astier.
Je salue Alexandre aussi. Voilà.
Bonsoir, François.
Bonsoir, Alexandre.
Il a fait une voix dans Astérix, François
Morel? Comment allez-vous, Alexandre?
Bien sûr, c'est Robert Alphabetix.
Faites-nous entendre, François, ce que vous dites dans le film.
Il n'en a pas la moindre idée.
À un moment donné, je crois que je dis « Oh, bah !» Et puis il y a aussi « Bah !»
Non, il a fait beaucoup de coups. Peut-être, François, tu peux leur montrer ce magnifique moment où tu prends un coup et où tu sais... Ah, voilà.
Voilà.
Je peux me permettre de vous dire une chose, Alexandre Astier?
Oui, bah faites toujours, oui.
J'aurais pu le faire, et pour moins cher. Bon, bah écoutez, on va aller le voir. Alors, il vous manque combien d'entrées?
Non, mais là, ça va. Non, ça se passe très bien.
Ça se passe très bien.
Vraiment. Mais allez le voir simplement pour votre plaisir personnel, parce que honnêtement, je dirais ça si j'avais rien à voir avec, mais je crois qu'il est pas mal, honnêtement.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va aller le voir. Merci, on va aller voir Astérix et le secret de la potion magique, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. N'ayez pas ce genre de mépris.
Non, pas du tout, j'ai de l'admiration. Et c'est un formidable trait, vous avez tout dessiné à la main.
C'est quoi le secret de
la potion? Il faut aller voir le film pour ça. Merci, on y va. Merci, Alexandre Astier.
Bisous, mon grand.
Va voir mon film, mon grand. Vas-y. Il va pas pour moi. Je m'en fous. Vas-y, vole mon film. Vas-y pour toi. Vas-y parce qu'il pleut. Vas-y parce qu'il pleure. Vas-y parce que tu as froid. Parce que tu es seul. Parce que tu as peur devant ta télévision. Parce que tu es enfermé chez toi avec les chaînes d'information générale. 24 heures sur 24. Le même char qui brûle. La même personne qui frappe une autre. L'autre qui prend, qui tend la joue, qui prend un coup. Vas-y, sors de chez toi, gamin. Va voir. C'est des dessins animés. Mais derrière le dessin, il y a parfois plus de vie que dans la vraie vie. Vas-y, va voir la fiction. La fiction est plus vraie que la vie. Vas-y, va trouver des émotions qui n'existent plus dans la digestion instantanée de la télévision, de la violence proposée par Internet. Et puis, cette guerre que se livrent les chaînes d'information Internet, qui, moi avant toi, moi plus que toi, plus fort, plus longtemps, plus vite, plus de sang, plus de rouge, plus. Vas-y, va voir mon film, gamin. Vas-y, salut. Mettez un petit disque, s'il vous plaît, tout de suite.
C'est pas la peine.
Là, c'est la vraie voix de Raymond Devos qu'on va entendre. Je crois que c'était à Radioscopie, l'émission de Jacques Chancel.
Vous êtes vous-même ?
Moi, je suis moi-même dans la mesure où je m'oublie. Je suis moi-même dans la mesure où je ne pense pas à moi. Et je crois que c'est ça, si vous voulez la vérité. Être soi-même, c'est s'oublier. Et c'est pas toujours facile de s'oublier.
Ne pas être en présentation.
Il faut des conditions. C'est pour ça que les gens qui aiment, j'allais dire qui que ce soit, eh bien quand ils aiment quelqu'un, ils s'oublient. S'oublier, moi je m'oublie, sur scène je m'oublie totalement. Je n'oublie pas ce que j'ai à dire. Dieu merci, je veux dire. Bon. Mais je m'oublie, je ne sais plus trop qui je suis. Mais qui je suis n'a aucune importance. Dans la vie, moi, j'ai beaucoup de mal à m'inscrire dans la société. Je ne sais pas si ce n'est pas une maladie.
Vous passez vite, d'ailleurs.
Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien dans la société. Toutes les démarches pour faire des papiers, faire des demandes, ça m'a toujours semblé quelque chose d'énorme, quelque chose... J'ai toujours rechigné. Je voudrais qu'on... être personne. Il faut bien un nom, bien sûr, il faut des papiers. Donnez-moi vos papiers. Ça m'a toujours semblé quelque chose de... Je sais pas, quelque chose qui me fait mal.
Merci Raymond Devos.
C'est avec la fameuse musique des radioscopies après.
Georges Delerue.
Ah oui, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est touchant, François Morel, d'entendre Raymond Devos comme ça, un personnage aussi énorme qui a l'air tellement extrême. Et au fond, c'est ça, c'est que les gens, souvent, c'est sur scène qui s'abandonnent plus. On croit qu'on joue sur scène et beaucoup de gens arrêtent de jouer quand ils sont sur scène.
Oui, je trouve que ça montre bien la générosité qu'il avait sur scène. Là, si on parle 2 minutes sérieusement de Raymond Devos, c'est-à-dire qu'il s'offrait complètement au public et c'était des spectacles qui duraient 1h30 avec entracte, puis 1 heure encore après. Donc c'était d'une grande générosité et c'était quelqu'un qui faisait tout pour que les gens passent un moment de rêve, d'amour, de bonté, d'échange. Et donc il faisait de la musique, il faisait des textes et c'était pas seulement quelqu'un qui faisait des mauvais jeux de mots derrière un micro comme je trouve on a tendance à le réduire aujourd'hui.
Alors gamin, on le voyait à la télévision, moi je l'ai jamais vu sur scène, on sentait, c'est-à-dire qu'il jouait la pensée aussi de ses textes, c'est pas juste des textes fins, avec, comme vous dites, avec juste des mots.
Et je trouve il jouait... Peut-être que c'est la télévision lui a pas si bien rendu service que ça, parce que c'est quelqu'un qui jouait aussi pour le dernier rang de l'Olympia, quoi. C'est-à-dire que il était maquillé, il était tout blanc, il avait des lèvres rouges,
oui,
etc.
Clown, oui.
Voilà, ça pouvait faire peur aux enfants, alors que quand on le voyait sur scène, c'était la grâce absolue.
Vous y êtes allé, vous l'avez vu sur scène ?
Alors, plusieurs fois, oui. Oui, j'avais vu au théâtre de Caen à la fin des années 70, et puis je l'ai revu à l'Olympia plusieurs fois. Ouais.
Alors quand on joue quelqu'un qui incarne tellement ses textes, c'est comme de reprendre au théâtre des rôles tenus par Guitry ou par Fernandel. On dit c'est tellement sa présence physique est telle, c'est tellement lui.
J'ai essayé d'oublier en fait. C'est-à-dire j'ai pris des textes, par exemple, là quand je dis « mon chien c'est quelqu'un », je trouve que c'est tellement bien écrit qu'il suffit de dire le texte. Il ne faut pas chercher à faire des effets ailleurs, etc. Et il ne faut pas chercher à changer une virgule. Et puis de temps en temps, il était aussi comme un enfant ou comme un clown. C'est-à-dire c'était des entrées de clown, c'était des choses très écrites qui peuvent lorgner du côté de Marcel Aimé ou de Kafka. Et puis il y a des moments où il fait l'imbécile, il fait le môme de 4 ans et demi et il veut faire rire les gens. Et je pense qu'on ne fait pas tous rire de la même façon, donc c'était important aussi que je ramène des choses un peu à moi.
Mais ça m'a fait un peu penser à l'extrait que je vous ai vu dire là tout à l'heure ici, quand Jean Rochefort disait des textes de Fernand Reynaud.
Mais en fait,
ça ajoute vous remettez des sortes d'angoisse métaphysique au milieu de textes qui ont l'air purement comiques et qui en fait sont angoissants.
En fait, c'est né exactement de la même façon. C'est-à-dire, c'est une production qui s'appelle Jeannine Rose, qui avait proposé à Jean Rochefort de réincarner les textes de Fernand Reynaud. Et lui, Jean Rochefort avait dit aussitôt, moi je voudrais que ce soit accompagné des musiques d'Éric Satie. Et ça donnait une espèce de mélancolie à tous ces personnages qui étaient tous piétinés par la vie, par la difficulté de vivre et par des gens arrogants autour d'eux. Tout ça. Il y avait une émotion extraordinaire dans ce spectacle. Et finalement, c'est Jeannine Rose aussi qui m'a proposé il y a 2 ans de faire une lecture spectacle au Théâtre des Champs-Élysées, ce que j'ai fait, et ce qui m'a donné envie d'aller plus loin et d'en faire un vrai spectacle.
Des textes plutôt que de Raymond Devos lui-même, sinon c'est trop. Oui. Ouais. Atmen, toi tu l'as vu le spectacle ?
Moi je l'ai vu, j'ai adoré, parce qu'il nous l'a rendu comme un poète en fait.
c'est plus un comique, mais un artiste, en fait, c'est un poète. Et là, on le voit tout de suite. Et surtout, il n'a pas pléonasmé ce qu'il y avait. C'est-à-dire qu'il va très vite, François, j'ai trouvé. Alors que, comme il l'a très bien dit, moi, j'ai trouvé de Vos un peu laborieux. Il nous faisait peur, il s'essoufflait. Alors que François va très vite. On entend des phrases incroyables, on les rappelle après derrière. Il y a deux sketchs incroyables. Celui de la truite de Schubert, avec 4 verres de whisky qu'il boit, avec une ivresse incroyable, et des petites musiques comme ça. Les radioscopies qu'on a entendues là tout à l'heure sont faites avec des marionnettes. Il y a une marionnette qui écoute avec le pianiste, Antoine et François. C'est des moments incroyables de théâtre, pas de sketch. À l'heure du stand-up, ça fait du bien. Moi, je dis la vérité, voilà, ça m'a fait un bien fou comme devanteur. Je dénonce.
T'hésites pas à dire des trucs, toi. Voilà, ça a toujours été Atman. Il en a rien à foutre.
J'en ai rien à foutre des autres. Et surtout, il n'a pas pris les tubes. Il nous a fait redécouvrir des trucs incroyables comme celui-là.
Vous l'aimez, votre François Morel. Vous avez fait toutes les tournées des Deschiens ensemble.
J'habitais 8 ans. J'habitais 8 ans.
Parce que vous êtes connu à l'époque de Deschiens et Deschiens.
On a une petite histoire. On a une histoire tous les deux.
Et vous avez fait énormément de villes ensemble avec Yolande Moreau, Bruno Locher.
On avait 300 villes sur 2 ans.
Et
c'est vrai,
c'est possible.
On avait ça.
Et vous sortiez du conservatoire, Atmen?
Exactement.
Vous
et François m'a pris sur son... Il m'a dit, prends ton petit Solex, prends ton petit vélo, je te prends sous mon aile. j'étais Rémi, il était Vitalis avec son chien. Et
j'ai
son
pas
pisseur.
La référence.
Tormalo, écoutez, j'ai des lettres, monsieur, je vous emmerde.
C'est dommage, cette grossièreté, non? Parce qu'il y a une certaine tenue dans la
Allez voir ce spectacle, c'est un truc de fin d'année magnifique.
Ça n'amène rien, oui. Le 2 mars, vous serez à Deauville, je vois. Pourquoi François Morel? Et le 4 et le 5 à Beauvais? Qu'est-ce
Pourquoi
qui se passe? Oui.
Parce que pourquoi Deauville? J'aime beaucoup Deauville et Beauvais.
Pourquoi je vois le 7 mars à Amiens et le 9
mars à Amiens, oui.
À Voiron dans votre tournée? Pourquoi ces dates? Pourquoi
Voiron pour le chocolat?
Oui.
Et le théâtre?
Elle est belle ta sincérité, môme.
J'en ai rien, oui. C'est super. Oui, là, voilà. Mon cœur est à nu devant toi, Edouard.
Ce que je trouve important de ce qui se passe ce soir, François Morel, dans cette émission, c'est pas le François Morel, c'est fini. Moi, je vois un homme qui a envie d'aimer, quoi, qui a envie de vivre.
Mais
quoi.
Quand même avec les tutus et les pampons.
Oui, bien entendu.
Évidemment.
Est-ce qu'il y a une jeune Léa qui nous a appelé, qui s'inquiète, qui n'arrive pas à dormir? C'est Rose.
Rose.
Elle a changé de prénom depuis l'émission. Rose, qu'est-ce qui se passe, ma grande? On me dit, Rose a appelé le standard et n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui se passe ce dimanche soir?
J'arrive jamais à dormir, mais que ce soit le dimanche soir ou n'importe quel jour de la semaine. Hein.
Mais il y a l'école pour ça, pour dormir.
Ça fatigue pas assez.
Tu es en quelle classe?
Je suis en 5e.
En 5e, ça commence à devenir sérieux, c'est ma phrase préférée sur les classes. Qu'est-ce qu'il y a en 5e de bien au programme? Il y a quoi en histoire?
En maths, on fait la symétrie centrale.
Oui.
La symétrie centrale. En français, on étudie l'avare de Molière.
Oui.
Ça, c'est cool. Et en histoire géo, on fait le Moyen-Âge. Voilà. Oui.
C'est moins cool, si on veut parler en thème de coolitude, sur l'index de coolitude. Ah oui. Non, mais la Moyen-Âge, c'était pas l'éclate, le Moyen-Âge.
C'est pas la meilleure période. Mais
non, pour eux non plus.
C'est cool quand même.
Parce que je connais les gens qui ont vécu le Moyen-Âge et maintenant, préfèrent maintenant, par exemple. Tu vois? Et en sciences de la vie, en physique?
Alors, en SVT?
Oui.
SVT, j'aime bien, mais mon prof, il est un peu mou, on va dire.
D'accord, on gardera l'anonymat pour
comment
toi.
Comment il s'appelle?
Non, arrêtez, François. Elle va avoir des problèmes. Non, ne le dis pas, je t'en supplie. Non, ne le dis pas. Mais il est mou. Il n'est pas convaincu, il est fatigué.
Il ne parle pas beaucoup et il écrit beaucoup. Donc nous, on écrit beaucoup, mais on ne parle pas beaucoup.
Et peut-être qu'il faut faire le premier pas, peut-être qu'il faut lui parler. Il y a beaucoup de problèmes. Non.
Peut-être, oui, je tenterai demain.
Bon, alors, mais c'est quoi? Il se passe quoi en physique? Il y a quoi en sciences physiques?
En physique, j'aime pas la physique. En physique, on fait.
Je dis ça parce que je veux même pas comprendre l'intitulé, je crois.
Variation de la température en fonction du temps.
Mais oui, tu sais pas du tout ce qu'on dit, les variations de la température en fonction du temps. Ça dépend beaucoup de l'indice géographique, ma chérie, tu sais.
Moi, j'aime pas trop la physique chimique.
Bon, on n'en fait pas.
Non mais on fait des châteaux forts, je me rappelle en 5e. Au Moyen-Âge, on dessine des châteaux forts, des machicoulis, des ponts-levis.
Atmen, c'était pendant la guerre quand vous étiez enfant. C'est parce qu'il fallait défendre la ligne Maginot et tout ça. C'est pour ça qu'on a perdu la guerre de 40.
Malheureusement, c'est moins belle plus tard. On dessine pas de châteaux forts, non, on fait juste des cours sur les empires, l'empire byzantin, l'empire arabo-musulman et l'empire carolingien.
Sans commentaire. Dis-moi, Rose, quand tu seras présidente de la République, tu feras quoi?
Ah mais j'aimerais beaucoup en plus être présidente de la République. Je mettrais des bibliothèques partout parce que j'adore lire et j'inciterais les gens à lire, les gens qui ne peuvent pas lire parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils n'ont pas, ils sont pas incités à lire chez eux, bah, je les ferais lire à l'école, par exemple.
Oui.
Et puis, comme...
Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Oh là, il est 11h, c'est le journal.
En ce moment, je lis beaucoup de choses. Je lis...
Vite, un conseil lecture.
Le portrait de Dorian Gray.
Le portrait... Bon, et essaye de... Et un livre pour dormir, peut-être... Alors, tout de suite, il est 11h, je suis obligé de te laisser parce que le journal va commencer. Un conseil pour dormir, les mémoires de François Morel pour bien dormir ce soir. 2000 pages, et les 600 premières pages où il raconte comment il aime... Il s'est écorché les genoux sur des chardons à côté de Vernon. C'est extrêmement ennuyeux. Je te recommande ça. On t'embrasse. Bonne nuit, bonne nuit. Le journal va nous rattraper. Salut, salut. Bientôt, Mariam El Kurdi va nous rejoindre. Elle est peut-être même quelque part dans la maison de Radio France, là. À tout de suite.
Et belle soirée à vous sur France Inter. On va aller chercher les lumières dans la nuit avec vous, Edouard Baird.
Merci beaucoup, Mariam El Kurdi. Vous en êtes une. À tout à l'heure, à minuit. L'angoisse commence à s'intensifier. Se rapproche... L'idée qu'il faut s'endormir parce qu'il faudra se réveiller. Et dans ces peurs du lundi matin, ces peurs enfantines, il y a celle de la première cantine de la semaine, le premier arrêt déjeuner en dehors de la maison. Que va-t-il y avoir? Vais-je finir mon assiette? Aurais-je assez à manger? Est-ce que j'aurai des boutons? Est-ce que je vais me faire charrier? Est-ce que je vais déjeuner seul? Est-ce que j'aurai des copains, des copines? Vanda, bonsoir. Kéliane et Vanda. Vanda et Kéliane, bonsoir. Bonsoir, si on ouvrait vos micros, on pourrait vous entendre et ainsi seriez l'honneur de cette maison. Voilà, Vanda et Kéliane, vous étiez l'année dernière en terminale.
Oui,
c'est ça. Vous étiez scolarisée.
Oui.
Vous alliez à la cantine scolaire.
En effet.
Qui mangiez-vous?
Eh ben, je me souviens pas très bien de tout.
Est-ce qu'en terminale, on est encore dans le monde y a-t-il des frites à déjeuner? Est-ce que je vais jeter ma crème caramel ou est-ce qu'on est déjà dans un âge plus évolué du rapport à la cantine?
Moi, je me souviens surtout que souvent, le problème, c'est que il y avait des pâtes.
Voilà.
Avec des pâtes.
Vas-y, vas-y,
quelqu'un. Et c'est ce qui m'a le plus marqué de la cantine.
Des pâtes aux pâtes, des pâtes au pain et du pain aux pâtes, bien sûr. Pas de sauce, Kéliane
Non, après, il y avait deux types différentes pâtes, c'est-à-dire qu'il y avait des lasagnes.
Oui.
Avec des coquillettes.
Oui. Alors, la lasagne, tu sais que c'est une pâte qui est agrémentée de viande de bœuf, très souvent, sauf sur des lasagnes végétales. Tandis que la coquillette, c'est juste une forme, finalement, de pâte, mais ça n'induit pas du tout une sauce.
Oui, c'est vrai, oui.
Tu as des souvenirs de sauce plus que d'autres?
Béchamel, oui.
Béchamel beaucoup. Aux pâtes, ça m'étonnerait. On va tout de suite appeler à Villiers-le-Bel. Restez avec nous, Vanda et Kéliane. Nous sommes avec Josiane, qui est responsable de la cantine scolaire de l'Orté. Bonsoir, Josiane.
Bonsoir, Edouard. Bonsoir.
Josiane, essayez de vous approcher du téléphone qui n'a pas l'air d'être votre amie à la seconde présente. Josiane, vous avez...
J'ai pas une très bonne connexion.
Ah voilà. Josiane, ça va très bien. Je sais que vous vous occupez depuis très longtemps de cette cantine scolaire qui est très réputée. On m'a dit que c'était spécialement bon la cantine scolaire de l'Orte à Villiers-le-Bel. Pourquoi, Josiane?
Tout à fait. C'est spécialement bon parce que j'essaye de faire comme si j'étais à la maison avec mes enfants.
Alors 400 repas par jour, c'est une grande famille.
Oui, c'est une grande famille, mais on peut leur faire de très bonnes choses si on y met du cœur, c'est tout.
Alors, ça dépend du budget par enfant? Comment arriver?
Bon, on a un budget sympathique, ça va. On a de quoi faire pour donner des bons repas, équilibrés, avec tout ce qu'il faut. Et tout le monde est content, apparemment. Bon, il y en a toujours qui n'aiment pas, évidemment, mais bon, en général, c'est bon.
Il faut finir son assiette à la cantine de Villiers-le-Bel ou on a le droit d'en laisser, Josiane?
Ah non, ils ont tous les droits, ils font ce qu'ils veulent.
Ils font ce qu'ils veulent, mais pas de projection murale de la crème caramel ou des choses comme ça.
Ah non. Bon, ils chahutent toujours un petit peu, mais bon, il n'y a pas de méchanceté comme ça. Non, ils sont mignons.
Est-ce que vous sentez des jours de joie, jours de frites et des jours de tristesse, jours de cervelle ou jours de foie de veau?
Vous savez que la cervelle s'est terminée depuis longtemps, Edouard.
Ah, c'est intéressant cette phrase. La cervelle s'est terminée depuis longtemps. Moi, j'ai toujours entretenu des rapports très difficiles avec la carotte râpée et la betterave. Vous la pratiquez?
Je pratique la carotte râpée, la betterave. Enfin, il faut savoir que moi, je ne pratique que des produits frais. Donc, c'est toujours meilleur et puis c'est bien assaisonné. La betterave, on y met un petit peu d'ail, on y met un petit peu de citron. Ça a un bon goût. Les carottes râpées aussi, elles sont sympas. on essaye de les décorer, on met des soudures, on fait des choses jolies déjà à regarder et qui donnent envie de manger.
Est-ce que vous pratiquez encore l'endive béchamel ou le... Ou ça n'existe plus tout ça? Non, ça n'existe plus.
Non. On pratique tous les légumes, mais bon, les endives, non. On fait des haricots verts, on fait des épinards, on fait des lentilles, des carottes, des petits pois, tous les...
Alors là, on est sur le légume, on est sur l'entrée. Quel est le hit plat, le plat winner à la cantine scolaire de Villiers-le-Bel, Josiane?
Il y en a pas mal, hein. Il y a le couscous.
Alors le couscous, qui est le plat préféré des Français? C'est vrai, voilà. Non, c'est vrai.
Sinon, bon, il y a saucisse frite, hein, qui est...
Ça marche toujours. Pas trop de gras dans la saucisse. Toujours. On est sur une Herta, on est sur une saucisse plus conséquente, une Morteau, une Montbéliard, on est sur quoi?
Non, on met de la saucisse de volaille.
Ah oui, on est obligé, oui.
Sinon, ça serait compliqué. Hein.
Alors, c'est un, oui. C'est un porc déguisé en volaille, une volaille. Et dites-moi, est-ce qu'on a le droit de savoir, par exemple, c'est quoi votre budget pour 400 élèves, par exemple, quand vous faites vos courses?
Alors, mon budget, je suis à peu près à 2,50 € par enfant.
2,50 €, ça fait, donc vous avez 1000 euros pour 400 enfants. Donc vous faites 2,50 €, qu'est-ce qu'on peut faire à part Jean-Pierre Coff? Et pas d'abats, les enfants mangent très peu d'abats?
Ah non, ils n'en mangent pas du tout, non. Non, on ne fait pas d'abats.
Bon, et alors vous...
Non, mais on fait par exemple une bolognaise, ça ne revient pas très cher et c'est bon. On fait du poulet aux olives, on fait du poisson pané... ou du poisson entier en sauce. Quand on arrive à l'obtenir à un bon prix, ça fait des parts qui reviennent à 1 €, 1,20 €. Et bon, c'est sympa.
Vous faites de la soupe avec les arêtes de poisson?
Pas du tout.
Non.
Je fais pas de soupe.
Il faut que rien ne se perde, hein, Josiane. Est-ce que vous êtes applaudi parfois? Vous avez servi le repas, vous arrivez, on a eu saucisses frites, eu de la carotte décorée, eu de la betterave aillée. Vous arrivez en salle. Et là, c'est l'ovation. Alors, Josiane, ici, au Bel Air, on va vous ovationner. Alors, attention. Dites-nous le menu. Attendez. On est là. On sort de la cantine de Villiers-le-Bel. Quels sont les plats qu'il y a eu aujourd'hui? Allez-y.
Aujourd'hui, on est dimanche, voyons.
Demain, vous servez quoi? Qu'est-ce qu'on sert demain?
Alors, demain, on va faire, je sais pas encore, en fait. Je pense que je vais leur faire des spaghettis bolognaise.
Oui! Formidable! Merci, Josiane. Formidable. Voilà. Les nouvelles sont bonnes. Les spaghettis bolognaise sont demain. Tous dans le 9-5 demain. Tous à Villiers-le-Bel. Si vous aimez la spaghetti bolognaise, si tu aimes la viande déjà hachée, déjà mâchée, si tu l'aimes quand elle se tutoie la pâte, si tu aimes le meilleur mélange du noir et du blanc avec le rouge sang de la tomate mêlée à tout ça, c'est la fête dans la bouche. L'œsophage te remercie. La digestion sera facile et tu pourras dormir en cours de maths l'après-midi. Merci. Retour plateau. Bonsoir à tous. François Morel. Vous êtes donc Eliane qui nous le lycéen qui maintenant vous étiez donc lycéen l'année dernière, cette année vous êtes quoi?
Eh ben cette année je suis étudiant en histoire de l'art et avec Vanda on est au conservatoire aussi de théâtre.
Du 5e arrondissement, on m'a dit vous avez déjà un texte que vous avez appris?
Oui,
on l'a copié.
Eh ben vous préparez votre scène de copie juste après la chanson de François Morel, on vous écoutera. François, un extrait du spectacle que vous interprétez au théâtre du Rond-Point, j'ai des doutes d'après des textes de Raymond Devos. Avec Romain Lemire et d'habitude ils sont en alternance
Salaire.
Et Antoine Salaire, et là on a les deux ensemble. Bonsoir Romain Lemire.
Bonsoir.
Comment s'appelle cette toute petite guitare? C'est pas un ukulélé?
C'est un ukulélé authentique.
Oh, merci de l'avoir apporté. On vous écoute.
J'avais dit pendant les vacances, je ne fais rien, je ne veux rien faire. Je ne savais pas où aller, comme j'avais entendu dire « à Caen les vacances, à Caen les vacances ?» Je me dis « bon ben, je vais aller à Caen ». Et ça tombait bien parce que je n'avais rien à y faire. Je boucle les valises, je vais pour prendre le car, je demande à l'employé...
Oui ?
Pour quand ? Quelle heure ?
Pour où ?
Pour quand ?
Comment voulez-vous que je vous dise quand ? Si je ne sais pas où.
Comment? Vous ne savez pas où et quand?
Bah, si vous me le dites pas.
Bah, je vous l'ai dit, quand?
Ouais. Mais vous m'avez pas dit où?
Pour quand? Quelle heure?
Pour où?
Pour quand?
Comment voulez-vous que je vous dise quand? Si je ne sais pas où.
Comment vous ne savez pas où et quand?
Mais si vous me le dites pas.
Bah, je vous l'ai dit, quand?
Mais oui, mais vous m'avez pas dit où?
Attendez. Je vous demande une petite seconde d'attention. Je vous demande les horaires des cars qui partent pour Caen. 5 ans dans le Calvados.
C'est vague.
En Normandie, vous débarquez.
Ah, là où a eu lieu le débarquement. En Normandie.
À Caen.
Prenez le car.
Il part quand?
Il part au car.
Mais monsieur le car est passé.
Ah, bah vous l'avez raté.
Bon, c'est pas grave, je partirai à 3. Ou à 7.
Merci messieurs. De qui est la musique alors? C'était à l'époque Raymond Devos, il le disait, hein, c'était pas musical. François, ne vous éloignez pas du micro pour me répondre, champion. Il est où mon champion? C'est étonnant qu'après
votre alors, champion est là.
C'est la musique est de qui?
Je vais me mettre un petit peu à côté de vous.
Viens là.
J'ai envie qu'on se touche un peu plus,
sûr,
non?
Bien entendu.
Et quelle heure est-il?
De qui la musique?
La musique est d'Antoine Salaire.
Oh, c'est formidable.
Antoine Salaire.
Oui, c'est vraiment des lettres qui sonnent très bien en bouche.
Antoine.
Parce qu'il y a le T, il y a la dentale, il y a Antoine.
Il y a l'ouverture avec le A.
Sifflant de
Antoine Salaire.
Antoine.
Et qui se referme.
Qui se referme, bien sûr, qui est très, très ouvert au moment du sale. C'est effectivement pas propre. Et sur la lèvre, et tout à coup, ça sera
Antoine. Antoine Salaire.
Salaire. Il y a le Antoine, bien sûr. C'est pas Antoine Douanel, c'est Antoine. Je crois que sa femme aime l'appeler son nom en entier. Elle ne dit pas juste mon Antoine, elle dit oh mon Antoine Salaire. Elle dit chérie, après 20 ans de mariage, tu pourrais juste mon prénom. Elle dit non, j'aime dire ton nom en entier. Antoine Salaire, ça lui fait penser à l'argent, ça fait penser à celui qui ne ramène pas, puisque vous ne le payez pas. Antoine Salaire. Tandis que Romain Lemire, alors là.
Romain Lemire, en même temps, le film d'Alexandre Astier qui est sorti mercredi dernier.
Avec Astérix, avec Lemire. François Morel, très ouvert.
Morel,
tout est possible.
Ça, c'est peut-être féminin. Ce qu'il y a de plus beau,
très
non,
beau,
j'ai envie de dire. Non, c'est super.
François Morel. Et là, les foules sont à François. François, bien sûr, mais Morel surtout.
Alors, là, c'est plus difficile.
Bonsoir, merci.
C'est dommage.
Et puis, alors, il y a Emmanuel.
C'est dommage. C'est ça, en fait, qui vous,
oui, je sais bien.
C'est ce nom qui vous handicape.
Oui,
parce que vous auriez pu faire une très belle carrière.
Très belle, bien sûr. J'avais tout.
Vous avez tout. Vous avez le physique. Vous avez
l'âme.
Vous avez l'âme.
La laine.
Et puis vous avez tout. Et puis vous avez le phrasé. Vous avez tout.
Et puis paf.
Et
je fais les fins de nuit hebdomadaires.
Et là, on sait jamais comment prononcer.
On sait jamais où on est.
On dit Édouard Berne.
C'est dommage. On me prend pour Stéphane.
Et alors, vous faites toujours les châteaux, tout ça.
Oui, oui.
Voilà, c'est dommage.
Brigitte Macron.
Et ça vous.
Ça me nuit.
Je vous en avais pas. C'est marrant parce que
vous m'aviez écrit une lettre anonyme.
Que vous aviez reçue.
Oui. Vous l'aviez signé comme un con.
C'est dommage.
Bon. Merci. Alors, est-ce que vous avez préparé? Merci. Alors, vous aviez préparé pendant ce temps-là les deux élèves du conservatoire. Vous êtes passé par hasard voir l'émission? C'est mieux qu'à la radio ou c'est mieux à la radio? Vous l'aviez entendu cette émission?
Oui, on écoutait des podcasts.
Oh, faites-moi un compliment, s'il vous plaît, j'en peux plus.
On vous adore.
C'est ça. Oh non, ça me gêne beaucoup.
Adore,
alors là, vous allez faire une scène devant un grand acteur de théâtre qui est Emmanuel Schwartz, que j'ai rencontré à Montréal il y a un mois.
Je suis chercheur de tête, en fait, cherche de jeunes acteurs français pour ramener au Québec.
Oui.
Alors, vraiment.
Parce qu'il y a trop d'acteurs québécois en France. Parce que, Emmanuel, vous jouez en Belgique, en Suisse, en France, vous venez voler le rôle des autres francophones.
Oui, le plus possible.
Oui. Oui. Et on a fait une belle émission avec Charles Bois il y a un mois, qui était épaté de vous rencontrer.
Oh, quelle fleur vous m'avez fait, Édouard.
Vous avez slamé, vous avez improvisé, on était sur le cul.
Mais oui, et que Charles Bois me dise, t'as vu Judy, il a pas manqué un accord.
Oui, c'est vrai.
C'est extraordinaire.
Oui, parce qu'on l'avait accompagné sur Lindbergh, c'est vrai.
Ouais.
Alors, on écoute, comment vous appelez-vous? C'est votre première scène. Alors, Kéliane, ton nom de famille?
Garo, Ratsimia.
Alors, il faudra choisir, parce que si tu ne peux pas prendre toute la place sur les affiches de cinéma, il faut en laisser. Regarde François Morel, il s'appelle François Morel de Rothschild, Mitterrand, Giscard. Eh bien, il a résumé par modestie. Alors, tu choisiras plus tard. Et toi, alors?
Vanda Bernasconi.
Ah, c'est pas le nom de tout le monde, au moins on ne te prendra pas pour quelqu'un d'autre. On vous écoute, c'est une scène de...
Copie.
Voilà, Emmanuel Schwartz,
La nuit de Madame Lucienne.
On vous écoute, vous avez 1 minute 30.
Très bien.
C'est ça, la tendresse.
Chers téléspectateurs de l'espace, Télélune vous dit bonjour. Bonjour Télélune.
Nous avons reçu beaucoup de messages de toute la galaxie.
En particulier de Pluton et de Bételgeuse. Nous ne pouvons pas répondre à tous. Cela nous prendrait toute la journée lunaire, qui est, comme chacun sait, très très courte, vu que le Soleil nous cache la Terre la plupart du temps.
Nous commencerons notre émission d'aujourd'hui par les prédictions météorologiques. Il fera beau sur les 3 anneaux de Saturne, pluie de feu sur le continent.
Vénus, arrivée imminente d'un météorite. Suspense.
Mars, des rafales de vent glacé balayant la plaine martienne à 10 000 km à l'heure arrachent les dernières cordillères.
Plusieurs martiens sans abri.
Uranus, explosion de la planète, pas de survivants.
Soleil, de plus en plus de tâches. Notre astre suprême serait-il malade?
Le temps nous le dira.
Place aux informations.
Top, vous trichez! Ils sont en train de lire. Non, dis donc. Emmanuel, vous avez vu ce que j'ai vu ou pas? On vous applaudit quand même, parce que nous sommes. Mais il y a eu de la triche.
C'est comme GG, non? C'est comme GG qui colle les textes sur le front.
Ah non, non!
Qui est ce GG?
Non, pas du tout!
Qui est ce GG? Oui.
Non, pas Gérard, on n'a jamais fait ça!
Mais si. Il paraît qu'il colle les textes sur la poitrine des GG, femmes, et puis ensuite qu'il colle les textes partout, partout.
Monsieur Depardieu? Peut-être.
C'est comme ça qu'il s'appelle, oui.
Alors vous avez lu votre texte sur un téléphone?
Oui, parce qu'on ne le connaît pas encore.
Ah, et vous ne le connaîtrez peut-être jamais, ça m'inquiète énormément. Je vous laisse l'apprendre. Pendant ce temps-là, je vais à l'aéroport. On va à l'aéroport de Dakar. À l'aéroport de Dakar, Jacques Souvent nous attend. Entre passage de douane, entre emballage de valises, entre souvenirs, colis fichés achetés sur la belle île de Gorée. Jacques Souvent, c'est notre homme au Sénégal. Bonsoir Jacques.
Bonjour à tous, j'espère que vous me recevez bien parce que après plusieurs péripéties, deux crevaisons, tous nos invités là qui sont partis, qui ont embarqué dans l'avion, on vous attendait.
Alors racontez, parce que vous étiez à Saint-Louis au Sénégal pour le festival du film. Exactement. Francophone. Comment ça s'est passé, oui, ce festival? C'est une ville très émouvante, moi je connais un peu Dakar mais pas Saint-Louis.
Ben, c'est absolument magnifique. On l'appelle la petite Venise du Sénégal, en fait, parce qu'elle est entre deux fleuves et l'océan, en fait.
Donc la seule référence, dis donc, il y a la Venise provençale, oui, la Venise du Nord, la Venise des Ardennes, la Venise...
La petite Venise. Non, mais c'était assez émouvant, parce que ce festival, en fait, il remet des trophées sur des talents et des œuvres comme ça du cinéma francophone. Mais il y a aussi plein de rendez-vous avec des producteurs, des acteurs, des réalisateurs qui se rencontrent et qui discutent entre eux. Et ça, c'est assez chouette.
Alors, est-ce que les films sortent un peu? Est-ce qu'on peut voir des films francophones? Est-ce qu'il y a un retour? Il y a un cinéma qui a rouvert à Dakar. Je salue le cinéma L'Empire qui a ouvert à Dakar récemment.
Voilà.
Et surtout sur des films africains.
Il n'y a pas un cinéma.
Et il n'y a pas un cinéma.
Et à Saint-Louis, il n'y a pas un cinéma.
Alors, c'est étrange.
Le festival, ils organisent des projections dans les rues. D'ailleurs, on a vu la pirogue comme ça dans un quartier, la pirogue de Moussa Touré, dans un quartier sur un terrain de football. Donc, c'est des écrans qui sont installés avec des haut-parleurs, simplement. Mais il n'y a pas de cinéma. Donc, la remise de ces trophées dans cette ville, c'était un peu étonnant. Là, je suis avec Arnaud Valois, qui est comédien dans le film 120 battements par minute, qui a obtenu le trophée de la réalisation. Et on s'interrogeait justement sur la diffusion de certaines œuvres en Afrique, au Sénégal particulièrement, donc avec le problème du VIH, mais aussi de l'homosexualité. Et le film n'a pas été projeté au Sénégal. C'est ça, Arnaud, hein?
Oui, c'est ça. Ouais. Bon, même pas l'Institut français.
Bonsoir, Arnaud.
Bonsoir.
C'est très étonnant. Bonsoir, d'avoir un prix. Alors, c'est un film qui est sorti il y a quelques temps, mais ils ont essayé de montrer des films sur plusieurs années, je crois, là-bas, puisqu'il y a aussi le film Félicité qui a été récompensé, son actrice, du moins. Comment voilà, se fait-il? Donc, 120 battements par minute, ce sont des sujets qui heurtent trop le sida, l'homosexualité, mais ils vont quand même le montrer, le film, sinon ça n'aurait pas de sens, si.
Je crois que le sida, ça va à peu près, mais c'est vraiment l'homosexualité, les hommes qui s'embrassent. Ça va plus la représentation.
Mais alors, je vais vous dire, quel est le sens de donner un prix dans un pays où le film ne serait pas projeté après?
Je pense que ça met un éclairage quand même, de donner un prix à un film comme celui-là. Ça donne aussi une tribune, puisque j'ai lu un petit mot de Robin Campillo à cette tribune, et donc du coup, ça sera rediffusé sur TV5 Monde et ça pourra être reçu dans toute l'Afrique.
C'est quand même un coup de pouce pour ce cinéma.
C'est dommage. Oui.
Mais c'est ça, je crois, que cherche à faire Abderrahmane Sissako, c'est d'essayer petit à petit, en donnant des prix dans des festivals, à éveiller un peu sur des films.
Exactement.
Différents. Oui.
Et puis, il faut respecter aussi, de toute façon, les cultures locales et ne pas arriver avec des gros sabots. Et c'est un travail qui se fera à petite échelle, mais qui se fera, j'en suis sûr.
Petit à petit, lancer quelque chose, allumer une petite étincelle.
Voilà. C'est ça.
Exactement. Est-ce qu'il y a Oasis Diop qui est avec vous ou pas?
Il est rentré dans l'avion déjà, Oasis.
Ouais, alors Oasis Diop, le grand compositeur de musique de film.
Oui, on n'a pas beaucoup de temps, c'est dommage parce qu'on aurait pu avancer dans l'avion et puis essayer de l'attraper. Mais ça va prendre beaucoup de temps.
Vous vouliez profiter en fait de l'immunité que vous accorde ce micro et le direct France Inter pour foutre le bordel dans l'avion. C'est pas
exactement.
Vous ça.
Exactement. Alors là, on Voilà, c'est nous les derniers passagers.
Alors
vous
allez-y,
attendez.
Mon vieux.
Excusez-nous.
C'est le nouvel aéroport de Dakar qui est plus loin.
Voilà. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Excusez-nous, c'est nous les derniers.
Ben, on va dire ça. Hein.
Demandez-lui ce qu'il pense du nouvel aéroport, s'il aime bien. Il est bien. Passez-le-moi, Jack. Passez-le-moi, ce monsieur.
Attendez, Attendez, mettez le casque. Il y a quelqu'un qui veut vous parler.
Monsieur, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Il n'était pas mieux, l'aéroport de Dakar, celui qui a fermé l'année dernière. Il est bien, le nouveau?
Vous êtes un truc. Oui, il est très bien, le nouveau, ouais.
Et faites-nous-en un peu la publicité. Qu'est-ce qu'il a de mieux?
Ben, tout.
Et vous y faites quoi, vous, monsieur?
Merci.
Ah non, pas de chance, il m'a rendu le casque.
Mais c'est peut-être une chance.
Oui, pardon, monsieur.
Passez au contrôle, s'il vous plaît, monsieur.
Allez, contrôle. Allez, passez-moi tout ça au rayon, machin. Fouille au corps, fouille intime. Allez, Jacques Souvent.
Bonjour, messieurs.
Arrêtez cet homme.
Je vous laisse.
Arrêtez cet homme.
Salut.
L'homme au micro, là, qui veut rentrer dans l'avion. Arrête cet homme. Saisis cet homme. Arrête cet homme au micro.
Yo.
Arrête cet homme. Saisis-le. Avant la montée dans l'avion, le micro est dangereux. Le son va se propager. Les idées, les pensées. Arrête cet homme maintenant. Pendant qu'il est encore temps. Pendant que sa bouche n'est qu'entrouverte. Arrête cet homme. Avant qu'il ne promulgue un message. Un message qui peut lui-même se répandre comme une traînée de poudre. Arrête cet homme, mec.
Non. Moi, ma quantité d'identité se perd en soirée. Là, je tout ça mal axé dans ma bouche. Moi, je prends ma douche dedans. Je joue debout dedans. Et ce doux soleil levant mes pensées amistades débarque kamikaze de mes amis d'Alamboucané. Sauf moi je suis jamais tanné d'aller ici et là, de parler plage, de palais moué, monde langue gardé par des vallées fous, des vallées doux, avec nos valises pleines de persillés dans forme d'origami mauritanique. Le monde est un chrysalide, proc est plein de vitamines. Ta mère crie au terrorisme, demande où est-ce qu'elle est sa fille, dans la chaîne avec le kid, à se faire pogner la poitrine.
Arrête cet homme, avec sa bouche pleine de dents, avec sa bouche pleine de sentiments, arrête cet homme.
Dans ma piscine, moi j'imagine les synonymes qui riment avec imagine. Pis c'est unanime, John Lennon et son fucking name me font spinner dans le vide comme un verre plein d'amphétamines. Vous comprenez, Edouard?
Stop ce mec, man, stop ce man, mec. Stop tes salamalek, man. Yo. Écoute un petit peu, l'homme qui vient par le nom de Jerry Astafa. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était Emmanuel Schwartz dans un slam québécois, là.
Vous avez compris, Edouard?
J'ai aimé l'énergie.
J'aurais jamais dû faire ça, en fait, parce qu'il paraît qu'on n'engage pas les acteurs avec des accents ici.
Quel accent de quoi? Qui parle d'accent? À tout de suite. Quoi? Accent? Quoi? Où ça? Comment? Donc quoi? Non.
Lumière.
Hé, lumière!
Sur France Inter.
One love, you're heading on your own love. Time not to be there. She says she won't care. Now you have something. Before you had nothing. I don't want to care. But your love's real. And it's an odd thing. I cannot be your whole world. But sit on the fake grass. And I won't believe that. And I never had enough for you. But you said someone will come and replace me. Can you replace me while it's true? Stop. One love, you're heading on your own love. Time not to be there. She says she won't care. Now you had something. Before you had nothing. I don't want to care. But your love's real. And it's an odd thing. I cannot be a whole world. You sit on the fake grass. And I won't believe that. And I never had enough. Someone will come and replace me. How can you replace me? While it's true. It's all good now.
the video stop.
Tiens, mais il est 23h42. C'est le grand plateau de 23h42. C'est une tradition qui commence aujourd'hui à 23h42. Des invités que vous n'avez pas entendus pendant la première heure et demie. Anne Bérez, bonsoir. Anne, chaque semaine, vous venez un petit peu rendre hommage à des livres dont on ne parle pas assez. Il est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une rentrée littéraire, qu'il y a des livres qui sont portés par la critique, par la presse. Et puis vous venez rendre hommage à d'autres livres. Et face à vous, je vous présente, juste il faut faire monter la sauce. Et face à vous, Emmanuel Schwartz, comme grand acteur québécois qui commence aussi à prendre les rôles des Français, c'est notre destin, nous. Le nouveau monde est là, il va nous bouffer. Emmanuel, comment ça se passe le théâtre francophone au Québec? Est-ce que c'est très vif? Est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs contemporains?
Très mal, on est trois ou quatre seulement qui arrivons, quoi. C'est vraiment.
Arrêtez, je vais y croire.
C'est navrant.
C'est quoi les auteurs? Parce qu'on connaît en France, il y a Robert Lepage qui vient jouer ici.
Il y a Robert Lepage, oui, mais il y a surtout Michel-Marc Bouchard, un de nos grands auteurs, René Daniel Dubois, Daniel Danis, que vous connaissez peut-être un peu ici.
Vous montez des textes québécois, des textes francophones, qu'importe la nationalité d'origine?
On m'engage uniquement dans des zone non nationale, donc c'est vraiment c'est entre terre et mer.
Voilà. Entre terre et mer, ouais. Cette zone de non-droit. Ouais. Vous avez joué vous avez joué aussi au Festival d'Avignon, vous avez joué du Laurent Godet. Quel est ce spectacle de Laurent Godet?
En fait, on ne l'a pas encore joué, celui-là. On va le jouer au Festival d'Avignon.
Le Tigre de l'Euphrate?
Non, le Tigre bleu de l'Euphrate, on a créé ça à Montréal le printemps dernier. Et là, on travaille sur un spectacle qui s'appelle Nous l'Europe, mise en scène de Roland Auzet. Et puis,
Ça parle?
Alors, ça parle de l'Europe. C'est un grand poème dramatique qui retrace l'histoire du XXe siècle. Et puis, c'est très léger. C'est un truc qui fait rire.
Non, c'est
plutôt le contraire.
Oui. C'est pessimiste.
C'est très profond. Oui. Ouais, voilà, c'est très deep.
Est-ce qu'on peut être profond et joyeux, Emmanuel Schwartz?
Je l'espère bien. Bon. J'essaie d'en faire la preuve avec vous en ce moment, mais je sens que ça marche mal.
Si, pas du tout. Vous êtes les deux, parce que moi, je suis superficiel et sinistre.
Ah oui,
c'est une catastrophe.
Ah, moi, je me considère comme désorganisé et sexy, vous voyez.
Je vous trouve alternatif et fugace.
Ah, tiens. Ouais. Et moi, je vous trouve à la fois complet cravate, vous voyez.
Tandis qu'Anne Bérez, vous qui êtes mauvais tempéré, on avait commencé à parler avec vous. Anne, est-ce que vous continuez à réparer des injustices, des livres dont on ne parle pas qui vous ont touché?
Oui, à ce titre, je voudrais lancer un appel à un prix qui existait, qui a disparu, qui s'appelait le prix de l'inaperçu.
Alors, dans tous les prix littéraires, il y a des prix qui ont disparu?
Oui, et celui-là, c'était justement le prix qui récompensait les livres dont on ne parlait pas.
Et alors, est-ce qu'on finissait par en parler ou on ne donnait pas le titre de livre? On allait au bout de la logique du prix, on ne donnait jamais le titre.
Si, et par exemple, je vous donne un exemple. En 2010, il y avait un livre qui était passé inaperçu, qui était un livre d'Éric Vuillard.
Oui,
ce même Éric Vuillard qui a eu le prix Goncourt l'année dernière. Donc, c'était quand même un prix qui avait du sens et qui était là pour récompenser un roman qui, en dépit de ses qualités littéraires, n'avait pas reçu l'accueil qu'il méritait.
C'est une sorte de prix de repêchage, un
Exactement. Peu. Exactement. Oui. Et à propos de repêchage, moi, je voudrais parler d'un livre.
Alors, attendez, je voudrais revenir sur ce prix, ça me touche beaucoup. Pourquoi on a supprimé ce...
Eh ben, je ne sais
pas.
Le
prix lui-même a disparu, le prix
Je ne sais pas, j'ai fait des recherches sur Internet.
Le prix de la...
De l'inaperçu.
Alors, peut-être le prix lui-même étant passé inaperçu.
Exactement.
C'est une sorte de truc à la Raymond Devos, quoi, oui. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que certains livres, on n'en parle pas alors qu'ils sont bons? Est-ce que tout ça, c'est copain comme cochon, c'est magouille et compagnie?
Non.
Il y a Morel qui me fait des têtes. Oui, vas-y, Coco, rentre-leur dans le lard.
Je vous donne un exemple. C'est que cette année, il y a eu 381 romans français qui sont parus. Évidemment, même moi qui suis écrivain, qui peut râler contre les critiques littéraires, on peut bien imaginer qu'aucun journaliste ne peut lire 380 romans français en l'espace d'un mois et demi pour...
Donc, ils peuvent partager le boulot, ils peuvent les renifler, les approcher,
et puis, les feuilleter. Et puis, il y a aussi cette chose-là qu'on comprend, c'est qu'en fait, les critiques, entre eux, ils ont besoin de se positionner par rapport aux autres. Si tout d'un coup, il y a celui du Figaro qui a dit du bien du livre d'Amélie Nothomb, il faut que celui du journal Libé traite le livre d'Amélie Nothomb pour pouvoir se positionner.
Ah merde, oui.
Et donc,
on
n'a
pas ça dans le cinéma. On a pas ça.
Et donc...
Mais prends un micro, Morel.
Non, moi, j'adore vos réflexions quand vous avez dit « Oh merde !» Bah oui, c'est exactement ce qu'on avait envie de dire. « Oh merde !»
C'est très difficile.
Et c'est votre signature, ce sont vos fulgurances. Quoi.
Ouais, je vous retrouverai.
Et donc, nous, les écrivains, on se retrouve...
Non, il y a le pianiste Antoine Salaire qui fait du Charlie Oleg depuis tout. Arrêtez d'appuyer les mots de Morel. Anne, ça s'appelle du woman rupting, ça, quand on interrompt une femme? Jamais je n'aurais interrompu Morel, vous n'auriez interrompu un homme. Ça me dégoûte votre comportement. Excusez-nous, Anne.
Et donc, nous, les écrivains, on se retrouve, c'est vrai, à chaque rentrée littéraire, à devoir se battre pour faire partie des quelques-uns, des 30, 40 qui parmi les... Voilà, dont on va parler, alors qu'il y en a beaucoup dont on ne parle pas.
Il y a un livre quand même.
Et donc voilà, donc moi je viens pour repêcher ou voilà, reparler d'un livre. Alors il y en a un que j'ai adoré, dont je voudrais parler.
Commencez à prendre des notes, bientôt les fêtes.
Alors il s'appelle Pour Sancy, il est d'un auteur qui s'appelle Serge Bramly.
Oui.
Et c'est l'histoire d'un homme qui vient publier un roman à la rentrée littéraire. Alors c'est très intéressant parce qu'il parle de cette chose qui est très étrange, qui est que quand on publie un roman, il ne se passe rien le jour de la sortie du livre. C'est terrible. Dans les librairies, il ne se passe rien. Parfois, même le livre...
Oui, on croit que le monde l'attendait. Oui, en fait, le monde ne vous attendait pas. Oui.
Parfois, notre livre n'est même pas...
Ça m'arrive aussi, cette sensation.
Parfois, le livre n'est même pas présenté dans les librairies.
Oui.
Enfin bon.
Oui, donc... ça y est, mon livre est prêt. Il sort en librairie. Allô.
En fait,
tiens le téléphone.
Alors que au cinéma, vous avez des avant-premières. Oui. Vous avez, voilà. Donc, nous, les romanciers, on n'a rien. Et donc, cet homme, il vient de publier un roman. Il a pourtant un certain succès, mais... Donc, il doit écrire son prochain livre, mais il n'y arrive pas parce qu'il se sépare de la femme avec qui il était, qui était sa maîtresse, parce qu'ils étaient l'un et l'autre mariés. Cette femme s'appelait Rivka, ce que je trouve un très, très beau prénom. Pardon, je perds mes feuilles. Un très beau prénom de personnage.
Oui, c'est une sorte de fakir à l'envers, de, comme ça, Rivka. Oui.
De roman. Et parfois, on aime un roman pour une phrase. Et moi, je voudrais dire la phrase pour laquelle j'ai aimé ce livre. C'est parce que cette femme... Donc, quand elle lui dit pourquoi ils vont se séparer, elle lui dit « parce que ce n'est pas ça, ma vie. »
Ça n'est pas ça.
Parce que ce n'est pas ça,
lui,
ma vie.
Ce n'était pas l'autre, oui.
Voilà.
Je vois très bien ce que vous dites. Alors, c'est une sorte de mise en abyme assez touchante de Serge Bramly, là.
Voilà, ça s'appelle Pour Sancy, c'est aux éditions La Thèse.
Aux éditions La Thèse. Et bien, ça me touche parce que moi, je connais cet écrivain. J'avais lu un livre formidable de lui sur un voyage en Chine. Serge Bramly, une très belle idée, cadeau pour les fêtes. Non ? Si, c'est vrai. Merci Anne Bérest.
Merci à vous.
Du fin fond de l'oubli, vous avez su repêcher des consonnes, des voyelles, qui allaient se brouiller, qui allaient former d'autres mots. Ça me rappelle l'époque où les pages des livres servaient aux halles de Paris à envelopper la viande ou le poisson, les oubliés, les invendus, aussitôt apparus, aussitôt dispersés, du plus loin de l'oubli. Serge Bramly revient, un grand écrivain. Merci. Car je voulais qu'on appelle une association. J'ai vu ça sur Internet. Vous savez, c'est le truc. Vous connaissez Internet, oui. C'est électronique. Il y a des choses.
On surfe sur Internet.
Oui, c'est ça. C'est
oui.
Comme du sport.
Oui,
ça. Et alors, il y a une association. J'ai perdu tous mes papiers. Merci beaucoup à tous, à toute l'équipe. Eugénie, il est où mon papier ? Voilà, vous ne demandez pas en direct. Mes lunettes sont où ? Vous auriez connu. Voilà, si vous regardez bien votre radio, vous verrez que j'ai des lunettes depuis peu. Voilà. Non, alors c'est une association que j'ai trouvée épatante et je voudrais savoir comment on fait, si ça marche vraiment. Ça s'appelle Merci pour l'invite et ça met en relation des gens qui ont des capacités d'hébergement et des femmes en difficulté qui veulent être hébergées. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir madame. Alors j'ai vu cette association. Donc comment ça se passe ? Ce sont des gens qui disent tiens, j'ai un local qui est libre, j'ai un appartement pour une durée dans telle région, dans tel endroit, tel type d'habitation, je suis prêt à héberger quelqu'un.
C'est ça. En fait, on a une page Facebook où les gens viennent nous envoyer des messages et nous dire « voilà, j'ai une place, je veux aider ». Et nous, on est en meilleure relation avec des personnes qui ont besoin d'aide ponctuellement pour une durée de quelques sous-jours à quelques mois pour qu'elles puissent ensuite se réinsérer.
Alors, quel est le profil des personnes qui demandent de l'aide ?
Ça va plutôt être des femmes qui viennent d'arriver à la rue. Et qui donc se retrouvent comme ça sans aucune autre solution. Il faut savoir qu'en France, le dispositif d'hébergement d'urgence est très très mal adapté. Et donc il y a très peu de place pour les femmes. Il est plutôt fait pour à la base des hommes isolés. Et donc elles se retrouvent souvent sans rien.
Alors c'est vrai que la rue c'est fait pour personne, surtout pas pour les femmes. Et dites-moi, on sait que il faut surtout pas, ce sont les premiers jours, il faut éviter, dès qu'on bascule dans la rue, c'est très difficile d'en sortir. Donc là l'idée c'est que juste avant que ces femmes basculent, juste avant qu'elles aillent à la rue, de leur trouver un logement.
L'idée en fait c'est voilà, ce moment-là où elles commencent à passer quelques temps à la rue, éviter qu'elles y restent pour éviter d'accumuler des problématiques médico-psychologiques qui au final vont faire qu'elles vont avoir du mal à se réinsérer, parce que si on reste un an, deux ans dans la rue, ça devient de plus en plus dur.
Alors comment on fait ? Donc les personnes ont des logements qu'ils mettent à leur disposition. Après, il s'agit aussi de se réinsérer socialement dans le travail, tout ça. Est-ce que vous accompagnez aussi ces personnes ?
Oui, en fait, c'est des associations qui nous orientent, des personnes qu'elles suivent, qu'elles connaissent. Et donc nous, on va les mettre en relation avec des hébergeurs solidaires. Et pendant toute la durée, on va mettre en place des outils pour que tout se passe bien. On va vérifier régulièrement que que tout se passe bien, qu'on va faire de la médiation. Et de l'autre côté, l'association qui nous a orienté cette personne va continuer à faire les conseils administratifs, continuer à faire les démarches pour que la personne soit pas juste un temps d'hébergement, ce soit vraiment un temps de privilégié où la personne va pouvoir se réinsérer ensuite.
Donc ça, c'est important pour des gens qui auraient des pièces dans leur appartement ou des studios libres. Vous, vous garantissez à côté que l'appartement va rester en état ou la chambre. Vous accompagnez quoi ? Vous ne les laissez pas seuls face à la personne ?
Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a plein de personnes qui ont envie d'aider, mais elles ont un peu peur et c'est normal. Nous, on est là pour les accompagner, pour les aider, pour les rassurer et si jamais il y a un problème, être là, être une hotline privilégiée.
Combien de femmes aujourd'hui vous avez pu aider déjà ?
Aujourd'hui, on a pu aider seulement 9 personnes et on espère en pouvoir en aider encore beaucoup plus. On est encore en mode expérimental, on a juste une page Facebook. Merci pour l'invite.
Ben oui, j'avais vu ça, voilà.
Et
oui.
On fait tout par là.
Bon, bah écoutez, alors, pour les moments, ces 9 femmes sont depuis quand logées par ces gens ?
Ça fait depuis décembre 2017 maintenant qu'on a commencé l'hébergement citoyen. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ces femmes, souvent, vont être hébergées plutôt vers des personnes qui, elles-mêmes, sont en logement social. C'est pas les personnes les plus riches qui vont héberger. Et ça, je trouve ça socialement très intéressant.
Et vous, Victoria Mandeville, d'où venez-vous ?
Rien de particulier. Moi, je viens des Vosges, à la base.
Oui. Et comment ça vous est venu, cette idée ?
L'idée, elle vient pas de moi. Elle vient d'un musicien bordelais qui a lancé un grand coup de gueule, c'était en 2015, en disant, voilà, tous ceux qui disent qu'il faut s'occuper de nos SDF et pas des migrants, bah, allez-y, aidez-les. Ouais. Et donc ça a créé un grand mouvement de plein de personnes qui avaient envie d'aider. Et ensuite, donc Pascal Piston nous a contactés pour faire de toutes ces personnes qui ont envie d'aider un vrai projet qui puisse vraiment aider des personnes. Donc on a choisi de faire de l'hébergement citoyen des femmes.
C'est vrai qu'à chaque fois on dit, oui, moi j'aimerais aider, mais au fond je ne pourrais pas, c'est trop compliqué, quelqu'un chez moi, et puis comment, si ça se passe pas bien, là vous garantissez que ça va bien se passer.
C'est ça. Il y a des choses bêtes, mais par exemple, on a une charte qui permet de savoir si est-ce que la personne aura des clés ou pas, est-ce qu'elle a le droit d'inviter des amis, est-ce qu'elle a le droit de sortir après une certaine heure, est-ce qu'elle a le droit d'utiliser le lave-linge, enfin plein de choses qui sont vraiment de la colocation, des choses bêtes, mais qui permettent que tout se passe bien parce que ça a été dit dès le début.
Bon, bah Victoria Mandeville, maintenant vous êtes emmerdée parce que je vais donner le nom, la page Facebook, vous risquez d'avoir des appels, vous êtes prête à recevoir et mettre en rapport les gens ?
Tout à fait.
Très bien.
On attend que ça.
Salut, je m'appelle. Merci pour l'invite. Allez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous trouvez Facebook et ensuite, merci pour l'invite. Merci Victoria Mandeville.
Merci à vous.
À tout de suite, parce qu'il est 54. Il est 54, à tout de suite. Salut. Le Noir qui chante. C'est chez vous, c'est Emmanuel Schwartz à Montréal.
Oui, il est bon, il est beau, il est jeune, il commence. Hein. Il commence juste, lui.
Je suis pas un fou des jeunes.
Il va faire des grandes choses.
Pas ouais. Trop les gens plus jeunes que moi.
J'aime pas trop les vieux, moi, tu vois.
Oui, bah là. Dis donc, c'est quand Avignon, Schwartz, alors ?
Alors, ça sera, j'imagine, en juillet.
Merci pour cette aide, ça, vraiment l'auditeur est servi, c'est le petit plus. François Morel, oui. Vous êtes toujours avec vos deux mecs, Antoine Salaire et tout Romain temps. Lemire, voilà, à la scène comme à la ville. C'est une très belle leçon d'ouverture que vous nous donnez dans cette époque qui est renfermée et triquée, là vous nous dites l'amour peut être pluriel. Vous avez des chansons dans votre spectacle sur De Vos au Théâtre du Rond-Point, voulez-vous nous en...
De Raymond De Vos même.
De Raymond De Vos.
Oui, pardon.
Et ensuite en tournée, une petite chanson, oui.
Quand tu danses la java, tes jambes sont si courtes. C'est comme les plaisanteries, les plus courtes sont toujours les meilleures.
Elle n'est pas très bonne, celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé, François ?
Hein ? C'est pas, ouais, elle est... ouais. Hein ? On peut vous en faire... Il y en a, je... y en a...
Allez. Bon, on essaie une autre, mais là je sens... je me mets à la place de quelqu'un qui écouterait cette émission.
Ah, quel été, quel été, quel été. Il pleuvait tant sur la côte où j'étais. On sentait bien que l'hiver était proche. On se baignait les deux mains dans les poches. La petite amie avec laquelle j'étais. Ah, quel été moche.
Et pas, ouais, c'est fini. C'est ce qui pouvait lui arriver de mieux à celle-là d'être con. Oui, avec plaisir, j'aimerais bien.
Ça s'appelle « Conseil d'une Espagnole à son jardinier ». Même le titre est décourageant. Vous finirez mal, disait l'Andalouse à son jardinier imberbe. Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe.
Je suis pas, je suis triste. Oui, je sais pas si je suis prêt pour une quatrième. Vous avez gâché le métier.
Elle s'appelle Dernier Soupir.
Merci.
Elle était si discrète qu'après avoir rendu son tout dernier soupir, elle en rendit un autre que personne n'entendit. C'est triste, hein.
C'est fini. Merci. Merci François Morel avec Antoine Salé, Romain Lemire. J'ai des doutes au Théâtre du Rond-Point et après en tournée. Pour la première fois depuis le début de cette émission, nous allons rendre l'antenne à l'heure. Rendre l'antenne à l'heure. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas un honneur, c'est un plaisir. Transmettre la parole comme on serre la main ou comme on passe le relais aux 4x100 mètres à Mariam El Kurdi ce soir, c'est non seulement une volonté mais une réalité. En effet, il est minuit. Ah merde, on était un peu en retard. Désolé, à la semaine prochaine, Inch'Allah.